Genesis, vu que c'est Mark Engvall, ils ont vraiment mis des gros moyens au début. Si tu relances pas, du coup, tu passes comme tout.
Mais c'est n'importe quoi.
Puisque du coup, ton pays, il est en guerre, mais du coup, t'es en train de perdre.
Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le 6e épisode de The Automotive Vision. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie d'Edwin Bossy. Bonjour Edwin, comment vas-tu?
Salut Hugo, ça va et toi?
Ça va très bien, merci. Donc du coup, pour présenter rapidement, on va dire, ce podcast, je voulais savoir si tout simplement tu voulais te présenter et parler rapidement de ton expérience professionnelle dans le milieu de l'automobile.
Oui, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Edwin Bossy. J'ai 23 ans. J'ai toujours été dans mon automobile, plus ou moins loin, depuis mon enfance, passionné. Et puis, donc j'ai fait des études là-dedans, on en parlera après. Et puis maintenant, je travaille pour Genesis, c'est une marque qui est récemment implantée à Genève. J'habite à Genève d'ailleurs. Et pour le coup, voilà, c'est la marque luxe, on va dire, du groupe Hyundai. Donc voilà un petit peu l'idée.
D'accord, très bien. Est-ce que tu peux rapidement nous parler donc du coup de ton parcours scolaire? Est-ce que tu as fait des études en lien avec l'automobile? Comment ça s'est déroulé?
Déjà, en fait, plus jeune, j'étais pas forcément bon à l'école déjà. J'ai toujours un peu eu des
D'accord.
notes. Je pense que c'est dû au fait que j'étais pas forcément passionné par ce qu'on apprenait, on va dire, pour les écoles, on va dire générale. Mais pour le coup, donc j'ai fait un bac S au lycée, scientifique option sciences de l'ingénieur. Après, je suis parti à la fac à Lyon, Lyon 2. J'ai fait des études dans de l'économie et des maths pendant 2 ans. Et puis, ma troisième année, je voulais vraiment pas continuer. Et puis, j'ai trouvé une école en ligne qui s'appelle l'ITM Graduate School, qui est maintenant basée au Mans, Aix-en-Provence, Monaco et puis Grand-Genève. Et pour le coup, donc, je suis rentré là-bas. À l'époque, il n'y avait que le Mans et Aix-en-Provence. Donc, je suis rentré au Mans. Donc, c'est une école qui est vraiment en plein milieu du circuit. Donc, c'est vraiment une expérience qui est assez unique. On est vraiment collé en fait, à la FFSA. C'est vraiment un bâtiment qui est collé à ça. Et puis, j'ai fait là-bas 1 an. J'ai eu mon diplôme qui est comme une licence, un bachelor. Et puis après, j'ai commencé directement dans l'automobile à travailler, quoi.
D'accord, ok. Et comment du coup tu as réussi à passer cette transition entre l'école et l'insertion en milieu professionnel, entre guillemets? Est-ce que tu as eu des contacts via l'établissement ou est-ce que tu as vraiment fait une prospection, toi
En fait, j'avais commencé l'école, donc c'était une année scolaire normale, hein, ça commençait en octobre, je crois, c'est terminé en juin ou en
D'accord.
août. Et pour le coup, à partir de février, j'avais déjà commencé à postuler un peu partout. À Genève.
Okay.
En fait, moi, il faut savoir que je suis né à la frontière suisse, mais je suis né en France.
D'accord.
Mes deux parents travaillaient, et travaillent encore d'ailleurs, en Suisse, à Genève. Et donc, j'ai toujours grandi avec la ville la plus proche de chez moi étant Genève, quoi. Donc, pour le coup, pour moi, c'était vraiment
D'accord.
logique que j'aille en Suisse. Puis, on parlera aussi des conditions qui sont un peu meilleures qu'en France. Puis, donc, j'ai commencé à postuler en février dans différentes marques. Et je crois que j'ai eu un premier appel, c'était en avril, après plusieurs relances de Mercedes. Groupe Chevalet à Genève, qui m'ont appelé pour
D'accord.
un entretien, puis après un deuxième, puis après un troisième, puis après, du coup, j'ai signé. Et en fait, la transition s'est faite vraiment dans la semaine même. En fait, dès que j'ai eu mon diplôme de l'ITM, j'ai commencé une semaine après chez Mercedes. C'était parfait pour le coup. Je n'ai pas eu de pause.
Ok. Bah, super, félicitations en tout cas. Donc, d'où elle vient ta passion pour l'automobile? Raconte-nous un petit peu. C'est une passion d'enfance ou.
Ouais, en fait, j'ai grandi avec ça. Pour le coup, quand j'étais petit, on allait souvent au salon de l'automobile, en fait, à Genève, qui est assez connu. Maintenant,
Bien sûr.
c'est moins le cas, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quand même un gros événement. Et pour le coup,
Bien
j'y allais
sûr.
souvent, j'ai grandi avec ça. Mes deux parents ne sont pas forcément issus de ce milieu-là. Les deux sont dans le côté horloger. Mais
D'accord.
c'est vrai que pour le coup, il y avait vraiment j'ai vraiment été bercé par ça, par le son des moteurs, par l'époque. En fait, pour moi, qui est la plus belle, c'était, on va dire, de 2011 à 2014. C'est là où, en plus, du coup, j'ai pu mûrir. Mais c'est là aussi qu'il y a eu la plus belle époque automobile, selon moi, moderne.
Bien sûr.
Donc, j'ai grandi avec ça et je ne voulais pas travailler dans ce monde-là au début, automobile. Je voulais faire d'autres métiers qui n'avaient aucun lien avec ça.
D'accord.
Mais c'est vraiment en arrivant, on va dire, à la fac, milieu de fac, que j'ai vu que j'avais du mal avec les métiers que je voulais faire de base, dans la finance, etc. Et que du coup, l'automobile, bah, c'était un peu mon issue de secours. C'est là où je connaissais beaucoup de choses, où je connaissais aussi beaucoup de
Bien
monde.
sûr.
Et pour le coup, c'est là où vraiment je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer? Et puis voilà, mais du coup, vraiment, j'ai grandi avec ça. Et en fait, déjà, si tu veux, vu que mes parents sont ni l'un ni l'autre issus du monde de l'automobile, pour faire un réseau, c'est assez compliqué au début. tu as très peu de
En effet.
connaissances. Et même, en fait, pour faire très bref, mon père est parti quand j'étais assez jeune. Et ma mère n'est pas du tout suisse, n'est pas du tout française, elle parle mal français, elle est biélorusse.
D'accord.
Donc, en termes de réseau, c'est zéro pour elle. Donc, en fait, vraiment, je suis parti de 0-0. Et pour le coup,
Ok.
j'ai vraiment essayé de développer ça à partir d'environ ouais, 16-17 ans. J'ai vraiment travaillé mon réseau sans vraiment le vouloir. Hein. Ce n'est pas forcément une volonté que j'ai eue, mais c'est tombé comme ça. Et puis,
Bien sûr.
ça m'a beaucoup aidé. Franchement, ça m'a beaucoup aidé. Et sans ça, enfin, sans le réseau, déjà, pour travailler en Suisse, c'est compliqué. Mais même en automobile, c'est
Ouais.
incroyable. Donc, vraiment,
Ok,
c'est.
d'accord. Bon, on aura l'occasion d'en reparler après
Bien
du
sûr.
réseau. Donc, bah, tu as parlé rapidement du Salon de Genève. Qu'est-ce que tu en as pensé d'y aller cette année ou pas du tout?
Honnêtement, non. En fait, j'avais peur d'être déçu. C'est vrai que donc, le dernier, c'était en 2019, je crois. Et c'était un petit peu
Ok.
l'apothéose, on va dire, du salon. Avec mon meilleur ami, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on écrivait des mails du coup, à plein de marques différentes pour avoir des accès VIP. Et donc, vraiment,
Ok.
c'était pour nous la plus belle année parce qu'on a eu beaucoup d'entrées. On allait chez Rolls-Royce, on allait chez Koenigsegg. Enfin, vraiment, c'était des très belles marques qu'on allait. Et
Bien sûr.
toujours vraiment dans le côté VIP, on avait vraiment accès aux véhicules, évidemment aux boissons, etc., au catering. Mais vraiment, c'était une expérience qui était assez unique. Et c'est vrai que cette année, en voyant la présence des marques, surtout en fait absente, ça nous a un petit peu découragés. On n'y est pas allé du coup. On n'y est pas allé. J'ai des amis qui y sont allés, qui ont été déçus. Donc
OK.
voilà. Je pense que c'est une autre expérience et qu'on aura malheureusement plus cette émotion et cet événement qu'on avait avant. Mais il faut faire avec, c'est l'air du temps.
C'est ça, c'est ça. Moi, je t'avoue, j'y suis allé cette année
Ok.
et j'ai été vraiment déçu. J'ai été vraiment déçu, tu vois. Alors avant, c'était dans les 4 ou 5 halls du Palais Expo, tu sais. Là, maintenant, c'était juste dans 2 halls. Et franchement, en 2 bonnes heures, on avait fait tout le salon.
Ce qui est très
Alors
triste.
qu'avant, une journée, presque, ça ne suffisait pas, tu vois,
Pour nous, c'était
pour
pas
faire
assez.
tout le salon.
C'était pas assez vu qu'on avait
Ouais,
accès
c'est
au
ça.
stand. On passait peut-être par stand peut-être 2-3 heures. Donc forcément, en fait, tu fais ça
Voilà,
en
c'est ça.
2 jours, en fait, le stand, enfin le salon. C'est une autre expérience.
Imagine.
Là, 2 heures pour un salon, c'est très triste.
Bah ouais. Franchement, ouais.
Tu
Très,
vois,
très triste.
on avait un salon. Enfin, c'est en Suisse, c'est assez connu enfin, pour Genève en tout cas. C'est automnal.
D'accord.
Et en fait, ça se passe au mois de novembre. En fait, on a un
Ok.
salon de l'occasion. En fait, c'est tous les garages
D'accord.
de Genève ou même de Vaud, en fait, quand on le voit à côté, qui viennent mettre leur modèle d'occasion. Et en fait, on avait beaucoup plus de monde, en tout cas en termes de ressenti, que ce qui a été annoncé par rapport au Games cette année, là en
Ça,
mars.
c'est pas...
Il y a eu beaucoup plus de monde et ça rejoint un peu, si tu veux, l'ancienne vibe du Games. En fait, il faut savoir qu'à l'époque, le Games, en 2005-2010, les gens venaient pour acheter des voitures. Et
Ouais.
à la fin, en 2019, ils n'achetaient plus rien. En fait, ils venaient juste voir. C'était plus un truc touristique.
Voir, ouais, c'est ça.
Et
Bien
puis,
sûr, bien sûr.
il n'y avait plus d'achat. En fait, l'achat venait après ça, pour le coup. Et en fait, je pense que c'est aussi ça qui a fait que le frein a été présent au niveau des marques présentes. C'est que les marques n'ont plus vu d'intérêt, en fait, d'avenir. Au vu des sommes dépensées, au vu du coût d'un stand qui est absolument énorme, il n'y avait plus de côté
Bien sûr.
rentable. Et puis, bah, c'est bête, mais c'est du business, donc forcément, ils ne vont plus forcément venir, quoi.
Là, clairement, à cette exposition-là, c'était dans toutes les belles voitures, les voitures vraiment d'exception. C'était que de l'exposition. C'était voilà, bah, c'était à des collectionneurs, etc. Et puis, c'est vrai que les trois principaux stands qu'il y avait, bah, du coup, au Games, c'était Renault, Dacia, donc qui sont exactement le même groupe. Et il y avait BYD aussi.
Ouais, absolument.
Tu sais, le constructeur électrique, là, il vient de s'implanter en Europe. Ils avaient vraiment les plus gros. Bah, ils avaient clairement le plus gros stand avec Renault. Et c'était assez impressionnant aussi. Mais voilà, sinon, il y avait rien d'autre, quoi, malheureusement. Il n'y avait pas d'autres marques présentes. Il y avait Piaggio. Enfin,
Ouais,
c'est dommage.
c'est un peu triste.
Exactement. Donc, du coup, on va parler un petit peu rapidement de ton expérience chez Genesis. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà de travailler en Suisse?
Bah déjà, comme j'avais dit, donc il y a forcément le côté où je suis originaire d'ici. Moi,
Bien sûr.
je suis la double nationalité. Je suis et français et suisse en termes de
Ouais.
papier. Donc forcément, déjà, c'était un gros avantage pour moi pour rentrer en Suisse. C'était le côté papier, en fait. Pour un employeur, c'est beaucoup plus simple à embaucher un Suisse qu'un Français au début. S'il est déjà en Suisse, en habitant en France, un Français, c'est déjà beaucoup plus facile. Mais si, imaginons, c'est sa première expérience en Suisse, il y a beaucoup de démarches à faire en termes de papier et il n'a pas forcément envie de faire ça. C'est pas coûteux, c'est juste,
D'accord,
on va
ok.
dire, assez chiant pour du
Administratif, ouais.
travail. Donc forcément, s'ils prennent des nouveaux, souvent c'est des Suisses, et s'ils prennent des personnes qui sont expérimentées, c'est des Français. Donc voilà un peu comment ça
D'accord.
marche. Donc il y a ça déjà qui m'a motivé, c'est le côté facilité en fait d'accès. Et
Bien
puis,
sûr.
justement aussi, en fait, le cadre de travail est très, très différent. Je sais qu'en France, typiquement, il y a beaucoup plus la vision des chiffres qu'en Suisse, dans le sens que vous avez des objectifs en termes de leasing, tu sais, typiquement, en termes de financement. Vous devez faire, imaginons, tant de véhicules financés par rapport à tant de véhicules cash. Nous, honnêtement, on s'en
Bien
fout.
sûr.
Franchement, que le client
D'accord.
il paye cash ou il paye financement, c'est pour nous, c'est un peu la même chose, dans le sens que c'est même limite mieux qu'il paye cash, parce que sur un leasing, en fait, quand on va baisser le taux d'intérêt, ça va être le garage qui va prendre sur lui, enfin la marque qui va prendre sur lui, assuré du moins. Et pour le coup, c'est pas facile.
D'accord.
Jeu, donc limite mieux qu'il paye cash, au moins c'est fait, puis il n'y a pas de problème de paiement derrière. C'est limite mieux comme ça. Donc ça, si
Ça vous
c'était...
rapporte quand même un peu plus d'argent s'il prend un financement. Enfin, nous, c'est le cas en tout cas.
En soi, il y a le côté argent, mais franchement, le côté rentable et sécurité, je trouve qu'il est plus facile sur le cash. Puis même, en fait, si tu
D'accord.
cash, tu as beaucoup plus de chances de revendre derrière au bout de 2 ans ou 3 ans. Alors qu'un financement, c'est
Bien
quand
sûr.
même assez étendu. Des fois, c'est 4-5 ans.
Oui.
Donc, en termes de turnover, je trouve que le cash est encore mieux par rapport à ça. Les gens qui payent
Ouais,
cash
bien
ont
sûr.
souvent pas mal les moyens et en fait sont souvent aussi ouverts à changements fréquents. Donc, c'est aussi une vision assez différente. Nous, on a des clients qui
D'accord.
payent cash, qui tous les 7 mois changent de voiture chez Mercedes. On est habitué à ça. Donc,
Bien
voilà.
sûr.
Nous, bah, du coup, tu es un peu bloqué entre guillemets au début. Et tu payes plus intérêt que la voiture en elle-même. Donc,
Ouais.
c'était ça aussi qui motivait. Parce que c'était voilà, vraiment le côté humain où en fait on faisait selon le client et pas selon nous.
Bien
Et
sûr.
puis aussi, la mentalité est très différente. Même si en soi, à Genève, il y a beaucoup de gens qui sont d'origine française à la base, qui sont venus en Suisse s'implanter, pardon. Il y a quand même beaucoup de mentalités qui sont beaucoup plus poussées, beaucoup plus ouvertes d'esprit. On n'a pas forcément de tabou au niveau de l'argent, pas forcément de tabou au niveau de tout, en fait, en général, sur la vie
Bien sûr.
privée. Donc, vraiment, côté ouvert, ça me plaisait aussi beaucoup. Et puis évidemment, bah, le côté salaire, quoi. Côté salaire, on est quand même bien
Ouais.
plus qu'en France. Juste en salaire de base, déjà, c'est plus élevé qu'en France. Puis les commissions, c'est quand même aussi plus élevé, quoi.
Bien sûr.
En
Toi,
côté...
tu vis à Genève ou tu vis à la frontière?
Non, moi j'habite à Genève. En fait, pour faire très bref, j'habitais en France avant. Et quand je suis rentré chez
D'accord.
Mercedes, ils m'ont donné comme condition que je devais habiter en Suisse dans les 3 mois. Et
D'accord.
ils sont un peu bêtes, mais bon, en fait, ils disaient c'est pour ton réseau. Ce qui n'est pas du tout une excuse valable, parce que du coup, si tu passes ta vie à Genève et que tu rentres en France que pour dormir, bah, ton réseau, tu ne vas pas le faire en France, quoi, mais qu'en Suisse. Mais du coup, donc, ils m'ont poussé à habiter en Suisse. Donc, j'ai emménagé en Suisse, c'était en septembre 2021. Et pour le coup, j'ai emménagé avec la Genève Centre. Genève Centre, c'est assez cher, mais au moins, du coup, j'étais proche du taf à l'époque chez Mercedes, là où je suis resté
Bien
un an.
sûr.
Et puis après, je suis parti aux Pays-Bas, en fait, pendant 9 mois dans le pétrole. Donc, j'ai gardé mon
Ouais.
appartement. Et puis,
D'accord.
après, du coup, je suis revenu en mars 2023 en Suisse, du coup.
Ok.
Et puis, bah, pour Genesis, quoi.
Alors justement, j'allais te poser la question parce que étant donné que tu vis à Genève, donc qui est une des villes les plus chères de Suisse.
Absolument.
Et bien plus cher que n'importe quelle ville française. Je voulais savoir un petit peu, en fait, si ça revenait pas au même, le fait de gagner plus, mais de payer plus cher, bah voilà, ta nourriture, ton loyer, etc. Est-ce que ça revient au même qu'en France ou t'es quand même gagnant dans l'histoire?
Moi, je pense que t'es un peu gagnant. En fait, si tu veux, on
Ok.
sort pas forcément de SMIC. C'est plus par canton,
Oui.
enfin par région, où du coup les gens ont un
D'accord.
salaire entre guillemets minimal. Enfin, minimal. C'est jamais. Tu peux aller encore plus bas, mais c'est un peu la base, quoi, on va dire.
D'accord.
En tout cas, à Genève, le salaire, souvent, c'est dans les 4 200 francs. Maintenant, c'est à peu près
OK.
pareil au niveau euro. Quoique même maintenant, en fait, c'est même gagnant. Donc, en euros, ça ferait plutôt du 4 000, 4 100, 4 250 par là, euros.
OK.
Là, je parle brut, hein, donc net, c'est à peu près à 3 500.
OK.
Donc, en fait, tu as déjà un bon capital. Maintenant, faut se dire que, évidemment, que tu peux t'en sortir en faisant, comment dire, un bon équilibre. En France, si tu veux, tu as des produits, on va dire, qui sont adaptés par rapport au salaire français. Donc, si tu es assez
Bien
malin, tu
sûr.
peux toujours aller faire tes courses en France. Même s'il y a quand même des lois qui te bloquent un peu au niveau de la douane, notamment typiquement en fait, sur la viande, tu ne peux pas acheter plus de 1 kilo de viande en France et l'apporter en Suisse, si c'est le cas, bah, du coup,
D'accord.
une taxe. Donc c'est
Ok.
un peu fastidieux, mais beaucoup font ça. Ils vont en France faire leurs courses, donc déjà forcément ça réduit ton budget. Et puis après, au niveau du loyer, en soi, c'est plus cher qu'en France, oui, mais c'est pas, on va dire, je pense que c'est pas proportionnel par rapport au salaire. Je pense que c'est quand même moins cher
D'accord.
qu'en France. Si tu gonfles le salaire français, imaginons 2 fois 3, nous, c'est pas un loyer.
Ouais.
Oh, c'est pas ça. Donc, je
D'accord.
pense que tu gagnes quand même mieux ta vie en Suisse. Maintenant, après, évidemment, tu as des frais qui sont assez exorbitants. L'assurance maladie, c'est très cher en Suisse.
Oui.
Tu payes entre 270 et puis 500 par mois,
Ouais.
ce qui
OK.
est un gros budget. Et on n'a pas de carte vitale, en fait. En fait, nous,
Oui,
c'est.
voilà, c'est ça, ouais. Ça te remplace ta carte vitale, en fait. Ça
Ouais, c'est
te...
ça. Même si,
C'est
imaginons,
bon.
tu assures au maximum, tu vas quand même aller, imaginons, à la pharmacie, acheter tes médicaments à tes frais. Des fois, tu as des réductions parce que tu as une carte
OK.
d'assurance. Et pour le coup, ce n'est pas
Bah,
forcément
très bien.
tout inclus dans le prix de l'assurance, quoi. Donc, c'est quand même un gros budget
D'accord.
niveau santé en Suisse. Maintenant, évidemment, bah, c'est un peu plus niveau qualité, c'est quand même plus poussé. Mais voilà. Et après, sinon, tout le reste, honnêtement, c'est plus ou moins comme la France, hein, franchement. À part le côté immobilier, assurance et nourriture. L'automobile, c'est plus ou moins
Ouais.
comme en France. Les services, un peu plus cher, mais ça va encore. Donc, franchement, en Suisse, tu gagnes quand
OK.
même bien mieux ta vie. Mais maintenant, en fait, forcément, si tu as le côté avantage au niveau salaire, etc., et que les coûts de vie, forcément, tu as beaucoup de monde du coup, qui sont attirés par ça et qui viennent. Et ça, nous, on le
Bien sûr.
voit. Et du coup, tu as vraiment le côté où c'est sursaturé au niveau de la demande et au niveau de l'offre, du coup, ça n'arrive pas à suivre. Donc, on a beaucoup de difficultés, on va dire, à trouver un travail. Et même aussi à changer de travail.
D'accord.
Même si tu as, imaginons, beaucoup d'expérience, c'est compliqué des fois à changer de travail. Et aussi, c'est très bête, mais plus tu as d'expérience, plus tu es payé cher, ce qui est logique.
Oui.
Par contre, un employeur, quand il va avoir le choix entre, imaginons, une personne qui est peu expérimentée, qui est française, et un qui est bien expérimenté et qui habite en Suisse, il va prendre le français, parce que ça lui coûte moins cher et qu'en fait, la main-d'œuvre est plus ou moins la même en termes de qualité.
D'accord.
Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué après quand tu as plus d'expérience. De changer de travail. Et même moi, qui suis assez jeune, je le ressens déjà maintenant. Ou du coup, il y a
Ah
des gens
oui,
où j'accepte
d'accord.
parce que j'ai, entre guillemets, trop d'expérience. Et du coup, ils préfèrent prendre une personne qui a moins d'expérience parce qu'ils sont conscients qu'ils vont moins payer cette personne-là. Moi, maintenant, j'ai des attentes salariales qui sont assez élevées. Et pour le coup, je sais que je vais avoir des difficultés à trouver un salaire équivalent à ce que j'ai maintenant ou même mieux encore.
D'accord. Ok. Ok, ouais, donc c'est intéressant quand même pour un Français de travailler en Suisse parce que bah, du coup, il peut être payé un peu moins cher qu'un Suisse, mais par contre, il va pouvoir quand même assez facilement, entre guillemets, trouver un travail quand même.
Absolument.
Je
Après,
présume.
tu vois, il y a beaucoup de gens qui pensent à Genève. Et honnêtement, je pense pas que c'est le bon lieu à aller maintenant. S'il y a des Français qui nous écoutent et qui aimeraient aller en Suisse, je leur conseillerais plutôt d'aller Canton-de-Vaud ou même
D'accord.
Fribourg. C'est des gens qui sont. Canton-de-Vaud,
D'accord.
c'est assez cher quand même. Enfin, ça reste moins cher que Genève, mais c'est assez cher. Mais Fribourg, c'est vraiment pas cher du tout au niveau du coût de vie. Et enfin, ça reste plus
D'accord.
cher qu'en France, mais c'est quand même moins cher. Et pour le coup, les salaires peuvent être plus ou moins équivalents selon les métiers. Il y a des métiers où c'est un peu moins payé qu'à Genève, typiquement, mais dans l'automobile, là où tu es payé la commission, c'est la même. Et en termes de population, c'est aussi pareil. Donc en fait, tu peux avoir comment dire, une cible qui est tout aussi large. Donc, pour le coup, je pense que ceux qui habitent Fribourg dans l'automobile, ils sont vraiment très bien parce que tu as peu de coûts de vie, un salaire qui est assez élevé et c'est gagnant, quoi. Et encore une fois, en plus,
D'accord.
eux-mêmes, ils cherchent des gens. Eux-mêmes, ils cherchent des personnes à avoir chez eux, au point que même ils offrent des loyers des fois, pour qu'ils en fait, habitent dans leur canton.
Ouais.
Donc en fait, c'est vraiment
D'accord.
du monde, quoi.
Ok. Donc, bah, c'est bon à savoir. Du coup, donc pour Genesis, bah, combien déjà vous vendez de voitures à l'année?
Alors, nous, on a plutôt des chiffres à faire. Parce qu'en fait, si tu veux, vu que c'est une marque assez récente, comme j'avais dit, on est arrivé en Suisse en 2021. On a commencé par Zurich, après on a fait Bâle en
D'accord.
2022 et Genève en 2023.
D'accord.
Vu que c'est assez récent, c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué de se fixer un chiffre aussi élevé que Mercedes ou que BMW. Mais par contre, on a vendu 700 véhicules, je crois, l'année passée, donc dans
D'accord.
toute la Suisse pour le coup. La plus grosse part, il y a quand même de Zurich, qui forcément est plus développée. Puis même les personnes en Suisse alémanique sont quand même plus ouvertes d'esprit qu'en Suisse romande.
D'accord.
C'est vrai que c'est plus compliqué à vendre à Genève, je pense. Maintenant, à Genève, ça commence à bien se développer. Nous, en fait, si tu veux, par vendeur, en fait, on n'est pas forcément des vendeurs chez Genesis, on est plutôt des assistants personnels par rapport aux clients. Donc, en fait, les clients,
Oui.
demain, s'ils ont un souci, au lieu d'appeler un standard, ils vont nous appeler nous. Donc, en fait, on va agir avant la vente, durant la vente, après la vente. Et en fait, à cause de ce processus-là, on est beaucoup plus proche du client. Et donc, en fait, on passe beaucoup plus de temps avec le client. Et donc, forcément, on va faire moins de volume. On va faire plus de qualité, de quantité.
Bien
Et
sûr.
donc, en termes d'objectifs, on est à 60 véhicules à l'année par personne en termes
D'accord.
de livraison. Donc, ce qui est assez bas, parce que Mercedes, c'était dans les 100, 110 à l'époque où j'étais là-bas. Donc, c'est quand même bien plus bas. On est quasiment à deux fois plus bas. Maintenant, c'est vrai que les chiffres, on les fait à Genève, dans le sens que c'est une marque qui est encore en développement et que les gens n'ont pas encore forcément confiance. Et les gens qui viennent aujourd'hui acheter une Genesis sont souvent des gens qui ont vu la marque rouler, on va dire, sur Genève ou Canton de Vaud. Et qui du coup sont intrigués par savoir ce que c'est, ils viennent chez nous et là ils vont acheter. Donc c'est vrai que
D'accord.
ça se développe vraiment que bouche, enfin majoritairement c'est bouche à oreille le développement. Et donc forcément, bah, plus on aura sur nos routes, plus ça va se développer. Et donc
Bien
là on
sûr.
sent la croissance en fait. On sent que c'est croissant. Début d'année c'est un peu compliqué honnêtement. Je pense que c'est pareil pour tout le monde, en tout cas en Suisse. Je sais pas comment c'est en France,
Bien
mais
sûr.
on galère à vendre en ce début d'année. Premier trimestre c'est horrible. Mais chaque Mercedes, c'est
D'accord.
pareil d'ailleurs. Donc, on fait avec. Mais voilà, les chiffres, on va dire que là, cette année, c'est 900 véhicules à l'année prévus pour la Suisse. Donc,
D'accord.
ça reste encore
Très
petit,
bien.
mais ça se développe quand même pas mal. On est, nous, en fait,
On se
population, c'est petit
développe.
en Suisse. On n'a plus forcément les chiffres en tête, mais on n'est pas beaucoup en Suisse par rapport à la France.
D'accord, très bien. Et mais donc du coup, en fait, vous faites pas du tout de marketing. Parce que, enfin, Genesis, on le voit ni en publicité à la télévision, ni sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'on les voit pas vraiment. Donc, vous faites du marketing.
En fait, on est peu développé là-dessus, c'est vrai, dans le sens que,
D'accord.
bah déjà, en fait, il faut savoir que Genesis en Europe, c'est que Angleterre, Allemagne et Suisse actuellement.
D'accord.
Il y a des discussions pour aller dans d'autres pays, notamment la France, dans plusieurs mois, années. Donc, forcément, déjà en France, il n'y a pas forcément de marketing. Il n'y a pas de pub par rapport à ça. Il y en a très, très peu qui roulent. Le seul qui roule, c'est des imports allemands, du coup. Mais en Suisse, en tout cas, c'est vrai que même
D'accord.
en Suisse, on a peu de marketing. Ça commence un peu à se développer, mais si on parle de marketing, comme on connaît tout. Enfin, comme on connaît tous, c'est la télé, etc. On n'en a quasiment pas. Mais par contre, on a beaucoup de sponsors d'événements. On est beaucoup sponsors d'événements de golf. Ou même, en fait, on a des événements. En fait, souvent, c'est aussi lié à tout ce qui est sport d'hiver. Enfin, vraiment, c'est différents événements qui sont sponsorisés par Genesis. Là où souvent, en fait, on va avoir, durant l'événement, des tests drive qui sont organisés pour les clients et pour les spectateurs, du coup, des événements. Mais c'est vrai qu'en fait, mis à part ça,
D'accord.
on est encore assez peu présent. Ça se développe bien. Pour augmenter justement cette
Très
présence
bien.
en ligne face à la présence physique qui est déjà bien présente. Et puis,
Bien sûr.
on a en effet des clients qui viennent de ces événements-là, mais on a encore peu de clients qui viennent de la partie en ligne. Donc, ça a développé, mais c'est vrai que
D'accord.
c'est un peu une lacune qu'on a à ce moment-là. Ouais.
D'accord, très bien. Et quelle est la typologie de clients du coup, c'est chez Genesis?
Alors, nous, on a déjà souvent, c'est des personnes passées de 35 ans, ils sont assez intéressés par la marque, c'est
D'accord.
peut-être qu'ils sont plus ouverts à changement que image de marque. Ça veut dire que quand tu passes 20 ans, enfin de 20 à 35 ans, tu vas souvent avoir cette optique de. Tu veux te prouver en fait. Tu veux prouver aux autres que tu as réussi, etc. Donc tu vas rouler en Mercedes, en Audi, en BMW, etc.
Ouais.
Mais Genesis n'est pas forcément un choix intéressant au début et on a très peu de clients qui sont dans la tranche 20-35. Maintenant, c'est vrai que passé 35, là où tu penses plus à toi et à ta famille, les gens commencent vraiment à s'intéresser à nous. Donc, c'est plus 35 ans. Et après, en fait, souvent, ces clients, c'est des clients qui ont eu des leasings dans des marques allemandes. Donc, Mercedes, BMW, Audi. On a aussi des clients qui deviennent d'autres marques. C'est vraiment de la clientèle premium. On est en fait une marque premium à la base. On a des prix premium, on a des conditions premium aussi. Et donc, forcément, ça va de soi. Et très, très peu, mais on a aussi des clients qui ont des véhicules depuis peut-être 10 ans, qui sont assez vieux, assez anciens et qui veulent justement du renouveau. Et vu qu'en fait, ils veulent aussi un petit peu se démarquer, on va dire, des autres personnes ici à Genève, mais dont ils sont fiers de
D'accord.
rouler avec tous les jours, quoi. Donc, vraiment,
Bien sûr.
c'est assez large. En tout cas, c'est plus de 35 ans jusqu'à 60 ans, on va dire.
Donc en fait, ce que recherche ta clientèle, c'est d'être discret. Il y a quoi d'autre en fait? C'est l'exclusivité de voir un véhicule nouveau, entre guillemets. On a le confort aussi, je
Ouais.
présume.
En fait, bien sûr, alors tu as le confort. Nous, on va plutôt vendre non pas le confort du véhicule en lui-même, mais plutôt de l'après-vente. Je m'explique. Bon, en tout cas en Suisse, pendant 5 ans, quand tu achètes une Genesis neuve, on a un service de conciergerie. On vient du coup à domicile ou au travail de la personne qui a acheté une Genesis. On lui prend sa voiture pour le service. on lui laisse un véhicule de remplacement gratuitement. Et toute la partie
D'accord.
main-d'œuvre et liquide et filtre, c'est tout inclus dans le prix du véhicule. Ça, c'est pendant 5
D'accord.
ans et tu as une limite qui est à 75 000 km. Et puis derrière, tu as également des conditions corporate, un peu comme des conditions flotte. Là aussi,
D'accord.
un avantage vis-à-vis de ton employeur, notamment en fait, au niveau des remboursements de frais kilométriques ou autres conditions, tu as également encore plus d'avantages. Typiquement, les plaquettes de frein, un disque de frein, c'est gratuit pendant 5 ans. Au niveau des roues hiver, tu vas avoir
D'accord.
également une prolongation. Bah, après, je disais, donc en fait, c'est 5 ans ou 75 000 km pour un client entre guillemets lambda. Et ben là, c'est doublé
D'accord.
au niveau du kilométrage. Et donc, ça, c'est
Ouais.
vraiment des conditions où les clients, quand ils vont venir chez nous, ils sont conscients que pendant 5 ans, ils ne vont pas avoir de problème. Si demain, il y a un problème, on est là pour gérer ça. Et encore une fois, c'est d'abord moi qui vais appeler. Même si c'est pas forcément moi qui vais gérer le problème, c'est moi qui vais appeler. Et justement, ils vont me donner le problème. Et moi, je vais savoir justement faire le dispatch du problème. Donc, si c'est un problème de garantie, je vais envoyer ça justement à une personne qui gère ça. Un problème, imaginons,
D'accord.
d'assistance. Donc, c'est vraiment assez complet par rapport à ça. Le client est vraiment très serein. Et en fait, ce qu'on promet, c'est vraiment le côté voilà, où il y a beaucoup moins de problèmes à gérer. Il y a beaucoup moins de temps aussi à consacrer parce que c'est bête, mais tu y vas du coup en voiture, mais pour revenir, c'est compliqué. Tu dois aussi bah, forcément prendre du temps. Souvent, c'est en semaine que tu as un garage travail. Donc, forcément, c'est aussi à ce moment-là que tu travailles aussi. Donc, tu dois poser des congés. Et en fait, nous, on veut
Bien
vraiment
sûr.
éviter cette difficulté au client. Donc, en fait, on offre ce côté premium. Et en fait, pourquoi nous, on le fait et pas les autres? C'est que Mercedes ou Audi, demain, s'ils doivent le faire, ils vont le faire pour tous les garages. Et en termes de logistique, c'est impossible à gérer. C'est impossible.
Bien sûr, mais très clairement.
Volume, c'est impossible. Mercedes, typiquement, moi, je travaille à Meyrin. C'est un petit quartier à Genève. On faisait 550 véhicules à l'année, juste ce garage-là. Donc, imagine si tu dois faire ça, du coup, pour tous tes clients. C'est impossible à gérer. Déjà, juste au niveau des véhicules de remplacement, on n'aura pas autant. Et donc,
Bien
forcément,
sûr.
on a cet avantage d'avoir certes peu de volume, mais du coup, de la qualité au client. Et en fait, c'est ce que les gens recherchent chez nous. Ceux qui vont acheter, souvent, c'est des gens qui ont déjà eu des soucis avec d'autres marques, problèmes de garantie, problèmes de fiabilité, etc. Et qui viennent chez nous en étant conscients que même si un jour il y a un problème, on sera là pour eux. Et on ne va pas les délaisser
D'accord.
à l'abandon.
Ok, super. Parfait. Donc du coup, toi, qu'est-ce qui te motive au quotidien en tant que personal assistant chez Genesis?
Bah, pour revenir un petit peu à ce qu'on disait avant, c'est que vu que tu passes beaucoup plus de temps avec ton client, tu as vraiment la chance de créer un lien avec lui. Ce n'est pas juste un chiffre, ton client, c'est un vrai humain. Et à l'inverse de
Bien
Mercedes,
sûr.
tu voyais plus le client comme un chiffre à la fin du mois. Là, c'est un vrai humain avec qui tu crées une connexion. On a beaucoup de clients qu'on tutoie, parce que du coup, forcément, on les voit tellement souvent qu'on les tutoie. Et ça devient vraiment des
Bien
amis,
sûr.
forcément dans d'autres marques généralistes, qui est présente par contre chez
Bien
Genesis.
sûr.
Et je pense que c'est ça qui me motive, moi et aussi mes collègues, c'est que vraiment, on a ce côté humain qu'on retrouve plus dans l'automobile, qu'on retrouvait encore 10 ans, mais maintenant, c'est fini. Et on est là un peu
Bien
pour
sûr.
maintenir un petit peu la flamme éveillée et que les gens soient contents de venir nous voir et soient contents, en fait, justement, bah, du service qu'on leur apporte. Donc, je pense que c'est vraiment la grosse motivation, c'est vraiment le côté où, certes, on a peut-être plus de difficultés à vendre, peut-être plus de problèmes à gérer aussi, forcément, puisque du coup, c'est plus large en termes de service. Mais pour le coup, derrière, les clients, vraiment, ils sont contents de nous et puis ils sont fiers, justement, de rouler avec la marque parce que, justement, en plus, on les accompagnait. Et ils sont fiers de partager leur expérience. Je pense que c'est la plus belle des choses à avoir, c'est que le client est fier de ça. Donc vraiment,
Bien
c'est la
sûr.
motivation, ouais, c'est sûr. C'est le côté humain, quoi.
D'accord. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous partager du coup une anecdote donc, qui peut être marquante, amusante ou juste professionnelle que tu as eue bah, du coup dans ton parcours chez Genesis par exemple?
Ouais. Alors, anecdote, pour le coup, je suis en train de réfléchir, mais je pense que... Ah oui. C'était assez drôle pour le coup. En fait, il faut savoir que moi, je parle russe, parce que du coup, ma mère est biélorusse, donc je parle russe, français et anglais. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu ce déblocage où quand une personne rentre et qu'elle parle anglais ou français, tu entends l'accent, tu vois. Tu entends l'accent qui n'est pas forcément d'ici, et tu sais qu'il vient de l'Europe de l'Est.
D'accord.
Du coup, en fait, forcément, ça s'entend bien. Il faut savoir qu'en fait, tous les pays du style Pologne, Ukraine, Biélorussie, même si c'est pas forcément leur langue natale, souvent en fait ils ont appris le russe parce que bah, du coup c'était l'époque de l'URSS où en fait du coup bah, le russe c'était la langue
Bien
commune.
sûr.
Donc souvent ces personnes-là parlent russe aussi. Et malgré les conflits
D'accord.
politiques, ils vont quand même garder le russe aussi dans leur langage. Et pour le coup, c'est vrai qu'en fait il y a toujours eu ce déblocage. En fait, quand ton client il parle russe et que tu parles russe avec lui, du moins, Il y a toujours des blocages où, personnellement, j'ai jamais eu de clients qui ne m'ont pas acheté de voiture sans parler du coup ma langue. En fait, je m'explique, dès que tu parles aussi au client, tu crées une confiance. Et à ce jour-là, j'ai aucun client qui m'a dit non pour une vente. Ça, je ne crois plus, genre Genesis, c'est une marque compliquée à vendre. Personne ne m'a dit non pour une vente quand c'est pas des Russes. Et ça, je pense, c'est vraiment un gros plus.
Incroyable.
C'est que quand tu as une langue commune avec ton client, mais qui n'est pas du coup du même pays, enfin du pays où tu es actuellement, ça débloque quelque chose qui est incroyable. Et même chez Mercedes, c'était pareil. Hein. J'ai zéro échec de vente à mon actif par rapport à un client russe. Et ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez cool et assez drôle. Et c'est vrai que si tu parles que français et anglais, bah, du coup, tu n'as pas ce côté-là, tu vois, tu n'as pas ce côté proximité. Et vu qu'en fait, nous,
Bien
Genesis,
sûr.
c'est un côté famille plus la langue, là, c'est le match parfait, quoi.
Ah, c'est clair. Incroyable. Ouais, franchement, ok. Non, c'est pas mal. Non, mais c'est vrai que par contre, c'est un sacré avantage de parler couramment trois langues très importantes au final.
Absolument. En fait, pour la Suisse, c'est un gros plus. Je pense que l'énorme plus pour la Suisse, c'est de parler allemand. Enfin, c'est français, allemand, anglais.
D'accord.
Si tu as le trio, c'est parfait. Parce qu'il faut savoir qu'en
Ok.
fait, la Suisse romande, donc la Suisse entre guillemets française, elle est assez petite par rapport à la Suisse alémanique. Vraiment, c'est peut-être un
D'accord.
cinquième de la Suisse alémanique. C'est vraiment très petit. Quoique, c'est même peut-être encore moins. Forcément, si tu parles allemand, tu es gagnant parce que peut-être que pour Genesis, c'est pas intéressant parce que du coup, il y a déjà un studio qui est à Zurich et puis un qui est à Bâle. Alors, du coup, les deux parlent allemand. Mais si tu bosses, imaginons, dans l'automobile et puis tu aimerais du coup développer un peu plus tes capacités, tu peux voyager à Zurich, à Berne ou à Bâle. Et je pense que vraiment là-bas, en parlant allemand, c'est un gros plus, quoi. Tu peux avoir des clients
Ouais,
français,
bien sûr.
des clients anglais. Et du coup, en fait, t'as pas de problème de communication. Nous, typiquement, tu vois, vu que
Bien sûr.
Genesis, c'est en Suisse, c'est géré par Zurich. On a justement ce côté où tu as une barrière de langue. On parle du coup anglais, mais tu as une barrière de langue avec
Bien
les
sûr.
vendeurs qui sont à Zurich parce que du coup, ils parlent allemand, non pas le français. Et c'est vrai que c'est assez compliqué des
Ah
fois
oui.
la connexion. Mais je pense que en fait, dès que tu parles une langue, la connexion, elle se fait vraiment directement, quoi.
D'accord, très bon. Comment ça se passe? Vous êtes en communication constante avec les autres concessions ou pas du tout?
Oui, en fait, il faut dire un truc, c'est que Genesis en Suisse, ce n'est pas une franchise. C'est la marque qui est venue s'implémenter. Et
D'accord.
pour le coup, donc Zurich, Bâle et Genève sont toutes liées entre elles. C'est géré du coup par Genesis Suisse, qui a du coup son QG, on va dire, à Zurich, qui eux-mêmes sont gérés par Genesis Europe, QG en Allemagne, à Francfort, je crois, et qui est eux-mêmes du coup gérés par Genesis Monde, du coup, qui est en Corée.
D'accord.
Et donc,
Très bien.
c'est vrai qu'on a ce côté où il n'y a pas de concurrence. Forcément, il y a des concurrences au niveau des chiffres, logique. Mais le stock est commun. Donc, le stock à Zurich, c'est également notre stock à nous. Et donc, on va vraiment toujours céder. Si demain, on a un test drive d'un client qui est à Zurich, on va appeler Zurich, leur dire qu'il y a un test drive. Ils vont le faire pour nous. Et puis, pareil, du coup, dans l'autre sens, les événements, souvent, c'est fait aussi en collaboration. Donc, quand c'est un
OK.
événement qui est fait, on va dire, au milieu de la Suisse, ben, on va avoir un peu des GPA, du coup, c'est notre titre. Des GPA, du coup, de Zurich ou des GPA de Bâle ou de Genève. Donc, on travaille vraiment en collaboration
D'accord.
ensemble. Maintenant, en Angleterre, en Allemagne, ça a commencé un petit peu à changer. Maintenant, c'est plus des franchises, là où, du coup, il y a un
D'accord.
propriétaire qui possède la marque. Et des échos que j'ai pu entendre, mais c'est vraiment entre une grosse parenthèse, c'est que, du coup, pour les prochains pays, ça va être aussi des franchises. Donc, notamment pour la France, ça va être des marques, enfin, ça va être des groupes de marques qui vont aussi avoir les droits
D'accord.
de vente Genesis. En tout cas, en Suisse, ça restera du coup la marque qui est venue en elle-même et ce n'est pas une franchise. Le propriétaire, c'est Genesis. Ce n'est pas un groupe comme on a du coup en France. C'est vraiment la marque qui est venue, quoi.
Est-ce que, à tout hasard, tu peux nous donner une fourchette de salaire entre, enfin, d'un GPA en moyenne en Suisse?
En fait, déjà, il faut dire un truc, c'est que Genesis, vu que c'est une marque nouvelle, ils ont vraiment mis des gros moyens au début. Vraiment, en fait, c'est.
D'accord.
Déjà, en fait, il faut dire que Hyundai, c'est un des. Enfin, le groupe Hyundai, c'est un des plus gros groupes au monde. En fait, c'est un groupe qui est très, très riche. Et Genesis, c'est un peu un caprice de la famille Hyundai. Ils voulaient justement avoir une marque de luxe, un peu comme Toyota Lexus à l'époque, comme Nissan Infiniti. C'était vraiment, ils voulaient avoir une
Bien
marque de
sûr.
luxe et ils voulaient vraiment offrir le maximum à leur clientèle. Et indirectement, quand tu veux offrir ça à ta clientèle, tu vas également offrir ça à tes collaborateurs. Donc nous, au niveau des conditions, c'est vraiment très, très bien. En termes de salaire de base, on est entre 6 et 6,5 par mois. Brut,
D'accord.
évidemment. Et après, au niveau
Ouais,
des
bien sûr.
commissions, les commissions, en fait, c'est nous, on a une commission qui est assez fixe, en fait, par modèle. Il n'y a pas forcément de commission par modèle. Enfin, c'est juste que c'est quand tu vends un véhicule, grosso modo, tu prends 600 francs brut.
D'accord.
Et puis derrière, tu as également, si tout s'est bien passé au niveau de tes chiffres mensuels, donc si tu as fait ton objectif mensuel et qu'en plus, du coup, tes clients sont contents de toi, tu as un petit bonus qui équivaut à peut-être 100 ou 200 francs par véhicule, par mois, du coup.
Ouais, c'est des primes supplémentaires.
Ouais, c'est ça, ouais. Mais après, honnêtement,
Ok.
vu que les chiffres sont pas forcément atteints, en tout cas à Genève, cette prime, on la connaît même pas, du coup. Mais
Oui, voilà, c'est ça.
du coup, ouais, c'est ça. C'est environ, on va dire que un GPA maintenant à Genève, il va prendre ouais, plus ou moins par mois, peut-être 7, 5, 8 avec les commissions.
Ouais, avec les commissions, ok.
C'est pas mal, honnêtement. Après, en fait, il faut juste se dire que ça, c'est que Genesis. Faut pas croire qu'en allant chez Mercedes sur un salaire équivalent, même si c'est une marque entre guillemets qui a les mêmes clientèles, ça n'a rien à voir. Mercedes, moi j'ai commencé à 4005 à l'époque, et en fait, nous on était
D'accord.
par palier de vente, ça veut dire que tu avais des échelles. Et en gros, imagine, tu fais un trimestre, tu fais, imaginons, je sais pas, peut-être 30 livraisons durant ce trimestre-là. Donc en fait, eux ils vont se dire, bah du coup,
D'accord.
là tu fais 120 livraisons à l'année. Et du coup, tu seras à telle ligne, tu vas avoir tel salaire par mois. Et en fait, tous les 3 mois, tu as une mise à niveau. Et à la fin de l'année, tu as une remise à niveau où en fait, on regarde ce que tu as fait de l'année et ce qu'on t'a payé. Si on t'a trop payé, tu rends. Et si jamais on t'a pas assez
Ah
payé,
oui?
ouais, tu rends. Après, en fait, c'était souvent assez bien fait pour que tu n'aies pas à rendre, en fait. Parce que du coup, on va souvent.
Oui, voilà, ok.
Et du coup, si tu n'étais pas assez payé, du coup, bah, on te payait la différence. En fait, des fois, les gens se terminaient avec l'année avec peut-être un billet de 30 000 en plus parce que du coup, ils avaient été pas assez payés durant l'année. Ça, c'était chez Mercedes, mais pour le coup, c'était propre au groupe Chevalet. En fait, chaque
Ok.
franchise avait la manière de payer. Et du coup, typiquement, je crois que c'était chez BMW. J'avais un ami qui bossait là-bas, aussi à Genève, et lui, il était payé, salaire de base, il était payé 2 500, je crois. Mais après, il avait les commissions.
D'accord.
Et du coup, à la fin du mois, il sortait avec du coup un 6, 5, 7. Ce qui n'est pas énorme
Ok.
parce qu'il faisait beaucoup plus de volume que Genesis fait. Mais pour le coup,
Bien
voilà.
sûr.
C'est juste que les grosses marques payaient beaucoup moins. Et aussi, il faut dire une chose, c'est que plus le temps passe, moins les marques payent.
Bien sûr.
Et que typiquement, en 2005, 2010, les vendeurs, ils prenaient par mois peut-être du 25-30. Et ce n'était pas étonnant. En tout cas, en Suisse, hein. Maintenant, un très bon vendeur en Suisse, s'il prend par mois 12-13, il est déjà bien, quoi. Il est déjà très bien.
D'accord,
Et
ouais.
pour le coup, voilà, malheureusement, ça a changé. Alors, il y a des vendeurs qui sortent un peu du lot. Enfin, je sais que moi, j'ai acheté une voiture là récemment, en privé. Et le vendeur travaille seul dans le garage. Il n'y a qu'un vendeur dans le garage et
D'accord.
il fait 500 véhicules à l'année, je crois. Il fait Toyota, Lexus et puis Maserati. Il fait 500
D'accord.
véhicules à l'année, donc c'est énorme. Et il fait tout seul. Donc, je pense que lui, typiquement, il doit être à 20-25 facilement. Mais après, voilà,
Ouais,
c'est
bien sûr.
un cas unique que c'est comme ça. Sinon, enfin, le reste, souvent, c'est en moyenne 10, je pense, par vendeur, quand tu es très bon. Et c'est en
Ouais.
moyenne 7 par vendeur si tu es, on va dire, OK.
Ok. Ouais, et puis vraiment, tout dépend de la marque, tout dépend du mois aussi, parce que
Oui,
bah,
bien
forcément, il
sûr.
y a des mois où tu peux vraiment vendre énormément. Il y a des mois, malheureusement, bon, bah, c'est. Nous, tu vois, par exemple, dans le sud, en janvier-février, c'est très calme. Tu vois,
Ok.
c'est très, très calme. Et par contre, bon, bah, là où tu fais vraiment toutes tes ventes, c'est entre avril et septembre. Généralement, c'est plein, quoi. C'est
Absolument.
plein
Nous, c'est
pot.
pareil, honnêtement. C'est pareil. Nous, on a eu un gros, gros boost en fin d'année passée. Novembre-décembre, on avait des belles
D'accord.
actions. En fait, on n'a pas forcément d'action sur les prix des véhicules, mais plus au niveau des leasings, on va avoir des taux qui sont assez attrayants. Et pour faire
D'accord.
un maximum de volume de véhicules à l'année, on a vraiment boosté un peu les taux en fin d'année. Et pour le coup, je sais que novembre-décembre, on tournait vraiment tous les vendeurs tournaient à entre 4 et 5 voitures par mois. Et donc là, pour le coup, on faisait les chiffres à faire et les salaires, forcément, ils suivaient. Quand tu faisais 5 voitures par mois, tu
Ok.
tournais à 9, 5, 10 par là. Et donc forcément, c'était bien.
Ok.
Maintenant, en fait, dès janvier, ça a chuté. Et puis bah, du coup, pareil, maintenant, c'est une période creuse chez nous. On a très peu de gens qui viennent. très peu de gens intéressés. Bah là, tu vois, genre ce matin, j'ai reçu un message par rapport à un client qui veut prendre un véhicule, mais c'est un message comme ça tous les 3-4 semaines, quoi. C'est assez compliqué, quoi. Mais on fait avec. C'est le
C'est ça, exactement.
jeu.
Exactement, c'est le jeu. On va passer dans la partie entrepreneuriat. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton projet entrepreneurial?
Oui, bien sûr. Donc, en fait, pour faire très bref, quand j'étais aux Pays-Bas, en fait, déjà pour les Pays-Bas, j'ai fait dans le pétrole, j'étais dans le. En fait, je gérais les relations entre deux clients, imaginons total échelle. Quand un achetait du
D'accord.
pétrole à l'autre, j'étais un peu la police entre les deux. Et je devais gérer la quantité et la qualité, savoir si c'était tout était OK. Du coup, j'étais une personne tierce. Et en fait, ça m'a permis d'avoir beaucoup de temps pour moi. Parce que forcément, vu que j'étais plus en Suisse et j'étais aux Pays-Bas, bah, du coup, ma copine était restée du coup en Suisse, mes amis étaient en Suisse, ma famille était en
D'accord.
Suisse, tout était en Suisse. Et j'avais plus rien du coup qui était aux
Okay.
Pays-Bas. Et donc, je me suis dit, bah, maintenant que j'ai du temps libre, je vais peut-être créer une boîte à côté de ça. Et en fait, c'est parti d'une rencontre que j'ai faite, c'était en juin 2022, je crois. Oui, c'est ça, enfin, ouais, juin 2022. J'ai rencontré une personne
D'accord.
durant un week-end au sud de la France. On était parti sur un circuit du Grand Sombuc. Si tu connais,
D'accord.
et pour le coup, on était parti là-bas. Et une personne, un jeune de Grenoble, j'ai rencontré là-bas sur place. Une personne qui avait différents déjà business dans l'immobilier, etc. On a sympathisé. Et en rentrant du coup aux Pays-Bas, j'ai pensé un petit peu. Et au bout de 2 semaines, je lui ai écrit. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu un coup de foudre, on va dire, côté business avec toi. Et pour le coup, je veux qu'on crée un truc ensemble. Et
Okay.
puis, pour le coup, parce qu'on a vraiment la même vision des choses. Et du coup, on a créé une société qui, en fait, on fournit un logiciel pour différents clients. Ça peut être dans l'automobile, dans l'immobilier, dans l'assurance, dans le domaine des finances, dans des corps de métier comme avocat, etc. Où on va fournir un logiciel qui va pouvoir faire une passerelle entre une rencontre physique et un CRM.
D'accord.
C'est un business qui est déjà très connu en Suisse et en France aussi, puis même en fait dans le monde entier. En fait, c'est des cartes de visite qui sont du coup en format physique, mais avec dedans une puce NFC ou un QR code. Et en fait, c'est
D'accord.
très bien développé, mais on a vraiment voulu voir ça d'une manière différente. Nous, du coup, ce qu'on vend, ce n'est pas la carte, mais vraiment le logiciel qui est très, très poussé au niveau du marketing, au niveau de la vente, au niveau du management aussi. Là où nos concurrents, ils vont justement vendre la carte comme du coup un outil de marketing pour leurs clients. Ils pourront mettre des photos, des vidéos, etc. Nous, on va plus voir ça comme du business, dans le sens que tous nos clients, c'est
D'accord.
du B2B. On ne va pas vendre ça à des indépendants. Et du coup, on va vraiment vendre l'idée qu'un manager peut gérer la performance de son vendeur, ou de ses vendeurs du moins, et il va vraiment avoir un œil sur tout ce qu'ils font, au niveau des performances, au niveau du nombre de leads qui ont été créés. Derrière, ces leads-là peuvent être exportés dans le CRM, et du coup, l'équipe marketing peut faire des campagnes. Campagne de remerciement pour la visite, campagne d'événements, etc. Donc, c'est vraiment très poussé, on va dire,
D'accord.
marketing et puis vente et management, du coup. Et au moins, ça pousse, on va dire, à optimiser, si tu veux, ton taux de conversion de prospect à lead. Enfin, en fait, normalement, prospect lead, c'est le même mot en soi, mais pour moi, un prospect, c'est un client qui rentre juste dans le showroom. Un lead, c'est une personne qui est potentiellement intéressée pour acheter ta voiture. Donc, en fait, elle a déjà pu
Potentiellement,
acheter.
personne.
Et tu sais qu'il est un petit peu qualifié. On va dire que pour moi, un lead, c'est un prospect qualifié. Et en fait, on va venir
Ok.
optimiser cette passerelle-là entre prospect à prospect qualifié pour vraiment maximiser les ventes derrière, quoi. Et donc,
D'accord.
on a fait ça en juin 2022. Enfin, on a commencé à créer ça. Ensuite, vu que c'est un logiciel et que moi, je ne connais rien à l'informatique, j'ai contacté deux personnes qui ont été avec moi au lycée. Qui maintenant, eux, sont dans des grandes boîtes qui font l'informatique. Et pour le coup,
D'accord.
je leur ai dit, voilà, j'ai un petit budget, mais on veut créer ça. Et du coup, ils ont créé ça en quelques mois, même quasiment d'ailleurs un an. On a vraiment travaillé pour
D'accord.
le maximum. Et puis, on a commencé à livrer nos clients à partir de, je dirais, octobre 2023. Donc, ça fait environ 6 mois.
D'accord.
En client, on va avoir un petit peu de tout. On va avoir Ferrari, on va avoir du Peugeot Citroën, on va avoir du McLaren. Enfin, vraiment, c'est assez ouvert. On a plus
Incroyable.
été automobile au
D'accord.
début parce que, en fait, automobile, ben, on connaît du monde. Donc, forcément, c'est
Bien
un.
sûr.
Mais également dans l'immobilier, on a Keller Williams en France aussi. On a quelques agents immobiliers.
D'accord.
Et puis maintenant, bah, du coup, ensuite, on a différents rendez-vous qui vont arriver à l'avenir pour les signer aussi. Mais différents agents immobiliers, des gens qui sont vraiment dans plein de corps de métiers différents. Parce que du coup, en fait, c'est tout ce qui est business.
Super intéressant.
Donc vraiment, ça se développe bien. Maintenant, c'est vrai qu'en fait, aux Pays-Bas, j'avais vraiment le temps de gérer ça au maximum. Parce que bah, du coup, j'avais ce côté on-off au travail, où vraiment, quand je pars du travail, j'ai plus à gérer mon travail. Automobile,
Bien
c'est
sûr.
différent, où ta vie privée, elle est quand même liée à ton travail. Donc, c'est vrai
C'est
que gérer
ça.
les deux, c'est un peu compliqué, mais on se débrouille, on fait avec.
Ok, super. Super. Donc en fait, vous êtes deux dans la société actuelle.
On est deux, absolument, ouais. On est deux. Donc, lui, il gère plus la partie finance, légale. Enfin, vraiment, voilà, le côté un petit peu paperasse, que j'aime pas du tout.
D'accord.
Et puis, moi, c'est tout ce qui est partie développement commercial, tout ce qui est aussi au niveau des idées de comment on voit l'entreprise, on va dire, à l'avenir au niveau des fonctions et des options pour les clients. Et puis également, en
Bien
fait,
sûr.
bon, après, on bosse à deux justement sur le côté démarchage. Lui, fait, enfin,
Bien sûr.
lui fait plus la partie française parce qu'il est à Grenoble. Moi, la partie du coup suisse,
D'accord.
je suis à Genève. Et donc voilà, on marche comme ça à deux. On n'est pas encore assez, on n'est pas encore assez bon pour se payer. Donc en fait, ça reste trois boîtes. Mais pour le coup, c'est vrai que l'objectif, c'est juste que ça, en fait, ça marche beaucoup plus et qu'on ait derrière justement cette balance, qu'on peut réduire un petit peu le travail que lui a et que moi j'ai dans la vie de tous les jours et qu'on puisse augmenter le travail
Okay.
sur le business, quoi.
D'accord, très bien. Et du coup, comment tu arrives à répartir ce temps entre Genesis, ton activité entrepreneuriale et ta vie privée, du coup?
Ouais, honnêtement, c'est un peu compliqué. Genesis, il faut savoir qu'au niveau des horaires, c'est du 10-19 en semaine.
D'accord.
Et puis le week-end, c'est du 10-17. Enfin, le samedi, quoi.
D'accord.
Et pour le coup, donc forcément, vu que mes clients, c'est du B2B, forcément, c'est des gens qui sont éveillés que la journée. Et je ne peux
Bien
pas les faire
sûr.
la nuit. Donc en fait, quand tu fais du B2C, typiquement, si imaginons, tu vends des produits en ligne, je ne sais pas, tu vends peut-être des chaussures. Et bah, du coup, les clients, tu peux également les toucher le soir. Quand ils rentrent chez eux, ils sont enfin, sur le téléphone, etc. Ils peuvent acheter le soir, pas de problème. Moi, je n'ai pas
Bien
ça.
sûr.
Moi, c'est que des clients qui vont signer parce que je les ai vus en personne. Et du coup, forcément, je dois les voir en personne durant la journée. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué à gérer ça. Et je dois prendre mes jours de congé, enfin, mes jours off en semaine pour justement voir mes
Bien
clients.
sûr.
Niveau vie sociale,
D'accord.
pas top, top. Maintenant, je sais que c'est un investissement sur l'avenir. Et
Bien
que,
sûr.
en fait, un jour ou l'autre, ça va peut-être payer. Alors, peut-être que je vais m'échouer et puis juste être déçu. Et puis, du coup, je vais recommencer, mais avec plus de force. Soit sinon, en fait, ça va marcher et je serai encore plus reconnaissant. Mais pour le coup, c'est vrai que c'est compliqué à gérer ça. Maintenant, je pense que l'idéal, c'est de trouver une bonne balance entre ton travail, ton business et ta vie privée. Moi, je sais que en période l'été passé, il y avait beaucoup, beaucoup de travail sur le business. Et j'étais du coup avec ma copine, bah, du coup, je pouvais plus gérer les deux en même temps, donc malheureusement j'ai dû faire un choix.
Ok.
Enfin, c'était mieux aussi pour elle, du coup, je pense. J'avais plus de temps à consacrer, et puis même mes amis me reprochaient justement de plus avoir le temps pour eux. Et donc j'ai essayé justement de faire cette balance où du coup je suis plus revenu vers mes amis et j'ai un peu lâché le business. Mais en fait,
Ok.
pour le coup, bah, forcément, ça ralentit le développement. Donc en fait, il faut vraiment trouver la bonne
Bien sûr.
balance, le bon équilibre où du coup ton. Proches sont contents parce que du coup tu passes du temps avec eux, ta famille aussi, du coup c'est hyper important, mais également aussi il bah, faut que tu
Bien
sois
sûr.
bon au travail parce que forcément après bah, du coup tu te fais vite bouger. Il faut savoir qu'en fait en Suisse pour rencontrer une personne c'est très facile, beaucoup moins qu'en France.
D'accord.
Donc
Ok.
si t'es pas bon, bah du coup tu bouges assez vite, et également bah, gérer le business parce que du coup tu as de la concurrence et forcément ils se basent sur un concurrent, donc forcément si tu développes une option, ils vont le faire derrière aussi. Donc, il faut être assez rapide et c'est vrai que c'est assez compliqué à gérer ça. Maintenant, je pense que avec le temps, tu t'y fais. Et même si, imaginons,
Bien
tu
sûr.
fais tout parce que du coup, tu n'as pas réussi à gérer à garder une bonne balance, ton prochain business, tu le feras encore mieux, quoi. Parce que du coup, tu sauras comment faire
Bien
des
sûr, forcément.
et tu seras bon, quoi. Donc, il n'y a pas de peur à avoir là-dessus.
Ok.
Même les gens qui ont peur parce qu'ils ont passé le temps, en soi, il y a toujours le temps. Mais il faut juste savoir bien avoir une bonne balance de vie, un bon équilibre. Et puis, c'est aussi pareil, mais quand j'étais étudiant à l'époque, je voulais déjà créer des business et j'ai toujours un peu avec des excuses en mode oui, mais j'ai pas assez d'argent, oui, mais j'ai pas assez de temps, etc. Quand t'es étudiant,
Laisse pas le temps.
c'est du pain béni. Étudiant, c'est le pain béni parce que tu as tellement de temps à côté et tu as tellement moins de problèmes à gérer. dans ta vie pro que du coup,
Bien
en fait,
sûr.
c'est pour créer un business, c'est le maintenant. Enfin, en tout cas, pour créer un business, pour te lancer dans le business, même si tu échoues, c'est la période idéale. Clairement, c'est idéal parce que tu n'as pas besoin d'argent pour créer un business en soi. Enfin, tu en as besoin, évidemment. Mais quand tu as du réseau, tu peux toujours faire avec. Le business qu'on a créé, il fallait de l'argent. Bah, on a fait avec les moyens du bord. Hein. Moi, j'ai appelé des amis qui étaient dans ce domaine-là, puis dans ce domaine-là. Donc, en fait, tu crées, on va dire, un réseau comme ça. Et après, quand tu vas les aider, ils vont t'aider en retour. Et pour le coup,
Bien
tu.
sûr.
Donc, en soi, genre, l'argent, oui, c'est une chose. Demain, tu veux ouvrir un garage, évidemment qu'il faut de l'argent. Mais tu peux d'abord créer des
Évidemment.
gens qui ont moins besoin de ça. Pour ensuite avoir l'expérience, en fait, justement, encore avoir moins de chance d'échouer et puis de réussir.
Bien sûr, et puis l'avantage avec ce genre de business en ligne, c'est que bah, justement, tu as beaucoup moins de capital à apporter.
Absolument.
Et c'est accessible, voilà, enfin, c'est accessible pour tous et par tout le monde.
C'est
Et
ça.
c'est vrai que ouais, je te rejoins, hein, quand on est étudiant, bah, voilà, on cherche des excuses, etc. Mais en plus, si on est étudiant et encore plus on vit chez ses parents, c'est vraiment béni, quoi.
C'est béni,
C'est
ouais,
vraiment du
clairement
pain
c'est ça.
béni.
Ouais. Faut te dire un truc, c'est que quand tu vis seul, forcément, tu as ce côté liberté où tu te dis bah, c'est trop bien, etc. Au début, tu es content parce que du coup, tu dois entre guillemets rien à personne. Mais tu redescends vite sur terre quand tu vois les factures tout mal à la fin du mois, quand tu vois les problèmes à gérer des fois, des problèmes de voisins, des problèmes de travail, des problèmes d'appartement, des problèmes de factures. Quand tu vois ça, c'est
Bien
vrai qu'en fait,
sûr.
tu te dis que tu étais quand même vachement chanceux en fait, d'être chez tes parents. Et
Ah, mais vraiment.
en fait, moi, quand je suis parti de la maison, j'ai dit à ma mère, c'est promis, je ne reviens jamais ici. Et du coup, bah, la promesse, je la tiens, tu vois. Mais évidemment, qu'il y a plein de fois, je me suis dit, bah, purée, si j'étais resté à la maison, j'aurais pu encore plus investir dans mon business. Et du
Bien
coup,
sûr.
c'est un choix, c'est une décision. Il y a des bons comme des mauvais points, mais faut faire avec.
Donc, explique-nous un petit peu pourquoi cette démarche, pourquoi aller aux Pays-Bas, et surtout pourquoi avoir choisi de travailler dans les commodities.
Oui, absolument. En fait, ça part de Mercedes à la base. Mercedes, j'avais un client que j'ai connu, du coup, qui s'appelle Pierre, qui est trader, du coup, actuellement chez Total, en Suisse, à Genève. Il est trader dans le gaz naturel. Et pour le coup,
D'accord.
quand je l'ai vu arriver, je me suis dit, oui, c'est une personne lambda, etc. Mais on a commencé à parler et j'ai vraiment beaucoup aimé sa personne. Et on a commencé à discuter sur son métier. Et il m'a parlé un petit peu de ce qu'il
D'accord.
faisait et ça m'a beaucoup plu. Dans le sens que c'était un peu. En fait, moi, j'aime tout ce qui est un petit peu caché, tu sais, tout ce qui ne se dit pas. Donc, en fait, en ligne,
Ouais,
typiquement,
bien sûr.
tu veux chercher des informations par rapport à ce domaine-là, le monde du trading, tu n'as quasiment rien. Enfin, tu as évidemment le trading que tout le monde connaît, tu sais, qui passe sur Instagram, à la bourse, etc. Ça, c'est une chose.
Oui,
Et après,
ouais,
tu as
bien
le
sûr.
vrai trading de pétrole, le trading de gaz, de métaux, de bois, etc. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. C'est en tout cas, j'appelle ça un vrai métier. Évidemment que c'est un métier aussi de faire du trading de crypto, etc. Mais c'est en tout cas un métier qui est beaucoup plus ancien. C'est vraiment à la base du
Bien
trading,
sûr.
à la base du commerce. Et il m'a parlé de son métier et puis il m'a dit qu'en soi, l'accès est compliqué, certes, même très compliqué, mais c'est possible. Il m'a vendu un peu les
D'accord.
mérites justement de ce monde-là. Et j'avais fait un entretien dans une école. Je crois que c'était l'IFM Business School qui était à Genève pour justement en fait
D'accord.
intégrer ce monde-là avec comment dire mes diplômes actuels. Si tu veux en fait l'UNIGE donc en fait l'université à Genève avait refusé mon dossier et m'avait dit que je devais tout recommencer à zéro au niveau des études pour intégrer le master. Moi je voulais avec mon bachelor faire le master. Ils m'ont dit non 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 faut recommencer à zéro ton bachelor donc faire encore 5 ans d'études pour pouvoir derrière être
Ah
trader.
non.
Et j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que bah, de un, ma mère, donc derrière les factures qui va les payer, et de deux,
Bien sûr.
tu commences à gagner ta vie, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu ne peux plus, entre guillemets, gagner zéro.
Exactement.
C'est impossible. David, du coup,
Ouais.
tu pas comme ça, donc c'est impossible. Et j'avais pas, et pareil aussi, il fallait. Et du coup, en fait, donc, quand je suis allé voir l'IFM, eux m'ont dit on peut faire la passerelle. Par contre, c'est un gros budget, et je crois qu'à l'année, je devais payer 25 000. Et du coup, je me suis dit, ouais, non, 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 sur 2 ans, c'est un peu compliqué. Et donc, j'ai un peu laissé tomber l'idée, enfin, vraiment, je suis passé à pas autre chose. Et je pense que c'est le
D'accord.
destin. 3 semaines après, j'ai un client qui vient, qui parle russe en plus, du coup. Et lui, c'était,
D'accord.
enfin, c'est encore d'ailleurs maintenant aujourd'hui, c'était le président Europe, Middle East et Afrique de Amspec. Amspec, si tu veux, c'est une boîte, donc j'ai déjà un peu parlé de ça, mais une boîte qui fait de l'inspection de pétrole. Qui, on va dire,
D'accord.
une entreprise tierce, un peu comme SGS ou même d'autres encore boîtes qui sont assez connues dans le monde, qui font ça. Et en fait, lui, il vient m'acheter un véhicule, un GLC, pour sa
D'accord.
femme. Et on commence à sympathiser, etc. Et donc ça, j'ai encore jamais raconté forcément, on va dire, publiquement. C'est seulement mes proches le savent. Je voulais partir, en fait, de Mercedes à ce moment-là. Parce que du coup, en fait, le groupe était assez spécial et je voulais vraiment partir. Et quand j'ai vu cette personne-là arriver et que je me suis renseigné sur son business, je fais purée, mais c'est parfait, ça peut être une passerelle pour moi dans ce monde-là. Parce que vu qu'il est en lien
Bien sûr.
avec des traders, bah, si moi je fais mes preuves sur place, peut-être que je peux d'ailleurs intégralement du trading sans diplôme. C'est un peu comme ça que j'ai
Bien
su la
sûr.
chose. Et il voulait négocier le prix du véhicule. Et moi, je sais que j'avais droit à 2% de manœuvre. Donc en fait, je dis 1%, ok. Mais l'autre pourcent, au début, j'avais dit, tu me trouves un autre client, puis tu me la ramènes chez Mercedes. Et il m'avait dit, écoute, moi je
OK.
suis en Suisse, mais si tu as une autre idée, je suis preneur. Je lui dis, bah alors un autre pourcent. Et du coup, tu me prends en, comment dire, en interview, enfin, tu sais, genre pour le côté travail. Il m'a dit, OK. 2 jours après, j'étais du coup dans son bureau, qui est du coup situé vers l'aéroport à Genève. Et
OK.
on a fait un entretien. Et moi, voilà, en fait, je lui ai dit, bah écoute, moi je vais être trader à l'avenir, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que moi, du coup, je peux faire auprès de Amspec pour faire ce métier-là? Et en fait, il m'avait dit, écoute, nous, on a des conseils commerciaux un peu comme des vendeurs, si tu veux, à Genève. Ils en avaient trois à l'époque, qui, pour le
D'accord.
coup, vont voir des traders tous les jours pour maintenir avec eux une connexion, pas qu'en fait, ces traders-là aillent voir d'autres business, enfin, concurrents, du coup, à ce business-là. Et en fait, c'est toujours maintenir, on va dire, un lien avec eux. Mais vu que tu es toujours avec eux, bah, techniquement, demain, si tu es bon dans ce domaine-là et que tu connais bien ce domaine-là, ils peuvent te prendre. Et il m'a dit, par
OK.
contre, si tu veux être, enfin, comment dire, vendeur dans ce monde-là, il nous faut une personne qui soit plus technique. Parce que ceux qui étaient là-bas sur place, déjà à Genève, ils n'étaient pas assez bons au niveau technique. Ils n'avaient pas forcément de connaissances. Il m'a dit, du coup, pars aux Pays-Bas, fais tes marques là-bas, vois si ça te plaît ou pas. Et puis après, du coup, en fait, quand tu reviens au bout de 7 mois, En fait, je devais revenir, du coup, pour fin décembre. Bah, du coup, tu fais moins 7 mois, ça devait être bah, en mai, du coup. Fin mai, pars, du coup, aux
D'accord.
Pays-Bas. Fais tes preuves pendant 7 mois et quand tu reviens, tu as un poste chez nous à Genève. J'ai dit, bah, du coup, c'est parfait, tu vois. Donc, moi, je pose ma démission, je pars 2 jours aux Pays-Bas à voir comment ça me plaît ou pas. Ça me plaisait, du coup. Donc, je suis
D'accord.
revenu. Ma copine, forcément, bah, va lui expliquer la situation que je pars aux Pays-Bas pendant 7 mois. Elle n'a pas de problème de ça, mais c'est pas grave. Et du coup, je suis parti aux Pays-Bas 7 mois. En fait, j'ai fait 2 mois justement sur les bateaux. À prendre du pétrole
OK.
de laboratoire. En fait, ce qu'on faisait, c'est que on allait prendre des samples de pétrole, on l'amenait au laboratoire, on faisait des tests, qui étaient les quantités, encore une fois, et après,
D'accord.
on envoyait des rapports aux clients. Donc, imaginons, s'il y avait deux clients, on envoyait aux deux clients, et que deux coups soient d'accord et qu'ils fassent business. Faut savoir qu'en fait,
D'accord.
vu que je parle français et que les traders sont majoritairement tous à Genève, plus maintenant, parce que maintenant ils partent à Dubaï, mais souvent ils étaient à Genève, et ben du coup, c'était un gros plus de parler français avec eux. Et du coup, tous mes collègues aux Pays-Bas parlaient
D'accord.
que néerlandais. Ou anglais aussi, évidemment. Mais du coup,
Oui,
pas.
ou anglais, voilà.
C'est ça. Et donc, en fait, après 2 mois, j'étais promu, du coup, dans les bureaux, là où maintenant j'étais en lien direct avec les clients. Et je parlais avec eux tous les jours, etc. Et en novembre, j'ai voulu voir justement pour les conditions de Genève. Et j'ai rencontré le directeur commercial de l'Europe, de ce groupe-là, qui m'a fait honnêtement une offre un petit peu ridicule pour la Suisse. J'avais demandé, je crois, 100 000 à l'année et il m'avait proposé un truc genre 60 à l'année. Et je demande, bah non, c'est pas du tout ce que je
Ah
veux. Et en fait, aux
ouais.
Pays-Bas, il m'offrait plus qu'en Suisse. Alors qu'aux Pays-Bas, genre vivre, c'est beaucoup moins cher, tu vois. Et donc,
Bien
j'avais,
sûr.
du coup, c'est insensé. Et en fait, ils m'ont même gonflé mon salaire, du coup, de novembre à décembre. Et ils m'ont dit, tout est.
D'accord.
Parce qu'en fait, il faut savoir que vu que moi, du coup, je suis resté aux Pays-Bas, mon appartement en Suisse, je le payais encore tous les mois. Donc, ce qui est un gros
Ah
budget.
oui.
Et je payais avec mon salaire des Pays-Bas. Donc c'était un gros budget. Donc certes, eux, ils me logeaient du coup aux Pays-Bas avec un véhicule de fonction, etc. Mais par contre, je payais
Ah
tout.
oui, quand même, bien.
J'étais assuré du coup en Suisse et j'étais du coup mon loyer aussi en Suisse. Donc c'était compliqué. Parce qu'en fait, ma copine était restée du coup à la maison. Elle était encore étudiante. Elle a un an plus que moi. Enfin, du moins, elle avait, puisqu'on n'est plus ensemble. Mais elle était encore étudiante. Et pour le coup, bah, du coup, je payais tout pour elle, quoi. Et donc, en novembre, ils m'ont dit, bah, du coup, on te paye tous tes frais en Suisse. Donc, en fait, ils me payaient mon
OK.
loyer et aux Pays-Bas et en Suisse, à sortir ma DEC en Suisse. Et puis, en fait,
Incroyable.
ils m'ont dit, reste encore 3 mois chez nous. Et après, tu pourras aller en Suisse avec des meilleures conditions. Et en fait, arrivé fin janvier, j'ai essayé de revoir un petit peu avec eux. J'ai vu que ça n'allait pas avancer parce qu'en fait, ils m'ont dit bah, finalement, attends jusqu'à mai. Et en fait, je sentais que
En
c'était.
fait, il repoussait sans cesse, en fait.
Voilà, c'était vraiment compliqué. Et j'ai. Donc, le président est venu une fois, justement, aux Pays-Bas. Et je l'ai pris à part pendant genre 20-30 minutes. On a discuté. Puis je lui ai dit, écoute, comment ça marche? Il me dit, bah, en fait, dans tous les cas, le poste actuellement à Genève, il n'y a pas forcément de poste disponible. Je me dis, bah, du coup, je fais quoi ici, quoi? Et en fait, il faut savoir qu'en décembre, j'ai mon chef actuel, du coup, de Genesis, qui met un poste à LinkedIn. C'est vrai qu'en fait, genre, ce chef-là, je l'ai connu à l'époque déjà chez Mercedes, hein, qui met un poste à LinkedIn. Comme quoi, il a pris deux personnes que je connaissais en tant que vendeur, en tant que GP, là, du coup. Et je l'ai félicité, etc. Puis on s'est appelé, puis du coup il m'a parlé du poste, puis j'ai dit bah tu sais quoi, go. Parce que dans tous les cas, je vais pas rester assez bloqué en Suisse, enfin du moins aux Pays-Bas. Faut que je rentre en Suisse,
Oui, bien sûr.
de part pour ma famille, et aussi bah, pour mon business. Parce que du coup, profil de Techfin.
Bien sûr.
Mon business commençait à prendre un peu plus d'ampleur, et du coup, je devais voir mes clients en personne. Mais aux Pays-Bas, du coup, bah, tes clients, tu ne vois pas. Donc en fait, j'avais
Bah
peine à
non.
revenir en Suisse, et puis bah, du coup, il m'a pris, quoi. Donc en
Ok.
fait, il m'a débauché des Pays-Bas et les Pays-Bas m'avaient débauché de Mercedes. Donc en fait, j'ai jamais vraiment postulé. C'est eux qui m'ont dit bah viens chez nous et puis voilà.
C'est incroyable cette histoire.
Ouais, c'est très spécial. Mais en fait, c'est juste que ça te fait une belle expérience parce que forcément, tu changes de pays.
Bien
Tu
sûr.
parles de là où tu avais vraiment une bonne zone de confort. Moi, j'avais tout ici en Suisse. Hein. J'avais une voiture que j'ai vendue forcément pour les Pays-Bas. Enfin, j'avais tout ici en Suisse. Et tu pars de tout ça pour aller dans un pays où tu connais personne. Dans le pétrole, en plus, du coup, c'est pas très, très sexy niveau business, honnêtement. Et en fait, le pétrole.
Okay.
Ah oui, du coup, bah, pour te répondre à ta question, le pétrole, en fait, concrètement, c'est hyper intéressant dans le sens que c'est un monde qui est très caché. Personne n'en parle, personne n'en veut parler. Et en fait, quand tu dis comme quoi tu bosses dans le pétrole, t'es un peu vu comme une personne méchante, un peu comme le diable, tu sais, parce que du coup,
Ouais.
tu pollues, etc. Déjà, il faut se dire une chose, c'est que le pétrole, chaque 5-6 ans, il y a des nouvelles réformes qui sont faites forcément bah, que pour le pétrole, mais personne, enfin, personne ne les écoute, on va dire, en public. Des
OK.
réformes, en fait, si tu veux, pour réduire la pollution. En fait, si tu veux, tu sais, quand tu vas demain à la pompe prendre du SP95 ou SP98, ou même du diesel,
OK.
en fait, tu as une fiche technique, si tu veux, pour ce produit-là. Tu as tant
D'accord.
de niveau de soufre, tant de niveau d'octane, etc. Enfin, c'est très spécial, très spécifique. Donc, si tu veux, en fait, tous les 5-6 ans, ils revoyaient ça à la baisse, pour vraiment que le produit soit encore plus propre. Et ça, personne n'en parle.
D'accord.
En fait, le pétrole, enfin, imaginons du 95 qui date enfin, de 2000, est beaucoup plus polluant que du 95 aujourd'hui. Et ça, personne ne veut le
Bien
dire.
sûr.
C'est dommage, tu vois, parce qu'en fait, genre, c'est très mal vu, mais je trouve que ça a le mérite d'être bien vu. Ensuite aussi, il faut dire une chose qui est très drôle, c'est que le pétrole, il contrôle, on va dire, la politique. Je m'explique. Si, donc, tu sais, enfin, quand tu as eu le début de la guerre avec l'Ukraine et puis la Russie, tu sais, à un moment donné, ils ont coupé un petit peu au niveau du gaz. L'Allemagne, du coup, en fait, a dit, bah voilà, nous, on va plus fournir à l'étranger, on va faire, enfin, du moins, à l'étranger, en Russie, du moins, on va faire que ça en interne ou du moins en Europe, etc. On va vraiment couper les vivres. Déjà,
Okay.
une chose, c'est que ça arrivait quelques mois après le début de la guerre. Il y a une raison, c'est qu'en fait, quand du coup tu es trader, tu peux acheter du coup du pétrole maintenant ou du gaz maintenant, mais également tu peux acheter
D'accord.
du gaz dans le futur. Du coup, en fait, tu vas dire bah, dans 3 mois,
OK.
je te prends du gaz à ce prix d'aujourd'hui. Et du coup, en fait, soit ça monte,
Ah, d'accord.
soit ça descend. Et en fait, si tu veux, bah, du coup, quand tu as la guerre et qu'en fait, bah, du coup, forcément, tu as des prix qui vont gonfler et d'autres qui vont chuter. Et ben en fait, du coup, tu vas avoir les traders qui vont dire, on va dire à la politique, donc au président, qui vont dire, bah, écoutez, vos actions là, vous faites plus tard. Donc en fait, tout ce qui est j'arrête de prendre là-bas, etc. Parce que nous, du coup, on a des actions futures. Et en fait, en faisant ça, ils vont contrôler la politique. Parce qu'en fait, ils vont dire, bah, dans 3 mois, tu pourras dire j'arrête de prendre du gaz ailleurs, tu vois. Mais pour l'instant, tu ne dis pas ça. Parce que du coup, si tu dis ça va niquer mon marché. Et en fait, du coup, en fait, si tu veux, ça marche tout comme ça. En fait, souvent, c'est genre décalé dans le temps parce que du coup, tu as ce blocus-là. Et en fait, le pétrole, c'est
Ah,
toujours
c'est
lié, on va dire,
dingue.
au monde politique. Il y a un livre que j'ai plus en tête, mais que je te dirai après, du coup, qui, en fait, c'est un livre qui rappelle, en fait, différentes histoires de guerre, mais qui sont liées au pétrole.
OK.
Là où, en fait, tu as des gens qui sont dans des pays en guerre, dire, OK, bah, écoute, moi, je te fournis du pétrole pendant, imaginons, tant de mois. Et en fait, pour le coup, au moins, du coup, tu pourras alimenter tes tanks, etc. Par contre, tu
Ok.
dois imaginer ton argent. Et ces personnes-là, leur dit, sont super riches, quoi. Parce que du coup, en fait, elles ont eu, on va dire, le courage d'aller voir des personnes qui étaient des résistants, des fois, typiquement. Leur dire, écoute, moi, je te fournis ça. Parce que du coup, ton pays, il est en guerre, mais du coup, tu es en train de perdre. Et moi, du coup, je te
Bien
fournis
sûr.
pour gagner. Mais d'ailleurs, tu me dois ça. Et du coup, on leur dit, ces personnes-là sont mais monstres riches, quoi. Et franchement, c'est incroyable de voir ça. Ah oui, puis aussi une chose, au niveau du pétrole, faut dire une chose, c'est que c'est un peu comme une carte grise. En fait, tu as souvent, on va dire, un certificat d'origine qui te dit d'où provient le pétrole. Donc, en fait, imaginons,
D'accord.
si tu te dis, j'ai plus envie d'avoir du pétrole, imaginons, de Russie ou de tel pays, pour le côté politique, pour le côté propre, et bah, du coup, tu vas essayer d'avoir un certificat d'autres pays. Mais quand tu vas mélanger, imaginons, deux pétroles différents, tu as un pétrole, imaginons, russe et un pétrole, imaginons, je sais pas, peut-être des Émirats, si tu fais
D'accord.
9% russe et 51% des Émirats, t'as que un nom sur ta carte grise, entre guillemets, enfin sur ton papier. Et du coup, c'est le nom majoritaire. Donc, c'est les Émirats. Donc, ouais, pareil, t'as plein de traders qui font ça, qui vont mélanger du pétrole un peu de merde ou du pétrole qui n'est pas forcément propre, politiquement parlant, et en fait,
D'accord.
mélanger un produit qui est propre en termes d'origine. Et du coup, en fait,
Bien sûr.
t'as un produit qui est sur le papier qui est propre, mais qui, en fin de compte, qui est quasiment à la moitié pas propre
Oh,
politiquement.
c'est dingue.
Et du coup, en
Ah
fait,
ouais.
c'est comme ça qu'ils sont hyper drôles et en fait que tu comprends quand tu es dans ce monde-là. Et franchement, c'est hyper kiffant, tu vois. En fait, c'est genre juste que ça te stimule beaucoup en termes de curiosité d'en apprendre
Bien
plus.
sûr.
D'en apprendre plus. Et tu as aussi beaucoup de gens, tu as aussi beaucoup de. Je sais plus comment dire en français, mais bribery. Enfin, tu sais, genre quand tu essaies d'acheter l'autre. Donc, en fait, même en fait, dans mon business où j'étais, chez Amspec, on avait des fois des traders qui disaient, bah attends, je te paye un petit peu plus. Et puis, du coup, tu arranges les chiffres. Ça me fait rire, mais du coup, c'est hyper illégal. Évidemment qu'on ne faisait pas ça.
Ouais, c'est des
Mais
pots de vin un peu,
voilà. Les pots de vin, ouais. Et tu as beaucoup de pots de vin dans le pétrole où, du coup, les gens veulent s'acheter entre eux parce que bah, forcément, ça arrange, quoi. Parce que même si tu payes, imaginons, 10 000 balles à un mec comme moi qui sur le PC qui peut à tout moment changer le chiffre et puis t'envoyer un mail, et bah, peut-être que toi, tu gagnes dans l'histoire tes 100 000 balles. Donc, ouais, forcément, c'est intéressant. Mais du coup, évidemment que tu faisais pas ça et que tout le monde restait
Bien
propre.
sûr.
Si alors tu faisais ça, bah, tu te faisais avoir. Et hein, d'ailleurs, il y a eu une
Okay.
saisie qui a été faite dans le bureau où j'étais. Moi, j'étais à Rotterdam.
D'accord.
Il y a eu une saisie qui a été faite quelques mois avant que j'arrive, avec justement un peu comme le GIGN, on va dire, entre guillemets, néerlandais, qui est venu saisir tous les PC, etc. Ils sont venus armer, etc., dans le bâtiment, parce qu'il y avait des suspicions qu'on faisait ça, quoi. Et donc, pour le coup, ils n'ont rien trouvé.
Ouais, bien sûr, non, et puis il doit y avoir des grosses sanctions, je pense aussi.
Ouais, c'est énorme.
Voire des peines de prison, ouais, c'est ça.
Absolument. Mais du coup, voilà, donc en gros, je suis revenu en
Ok.
Suisse. Le contrat n'a pas été respecté, donc voilà quoi. Mais ça arrive. C'est comme ça que tu avances.
Ok, ouais, bien sûr, bien sûr. Mais en tout cas, ça devait être une belle expérience.
Vraiment,
Franchement, c'est
franchement, les
trop
gens
bien.
là-bas sont super cool, super ouverts d'esprit, donc là,
Ouais.
c'est tranquille, quoi.
Ouais, je sais, bah, tu vois, mon meilleur ami, là, pour sa dernière année de master, il est parti, du coup, à l'université de Rotterdam.
Ok.
Donc, du coup, je suis allé le voir deux fois, déjà. C'est vrai que c'est un environnement qui est, mais totalement différent. Enfin, moi, vraiment, je suis un enfant de la Côte d'Azur, donc je sais pas si tu connais, mais c'est vraiment, la Côte d'Azur, c'est superficiel. Ouais, vraiment, c'est superficiel, au maximum. Et en fait, là-bas, tout est simple, les gens sont simples. Y a pas de. Ce qui m'a choqué vraiment, c'est les beaux endroits. Les gens, ils sont en chaussures de randonnée dans un hôtel 5 étoiles, il n'y a aucun problème. Tu vois? Ça m'a vraiment surpris pour le coup. Tu vois? Il n'y a aucune. Faut absolument pas se fier à l'apparence, dans le sens où tout le monde est très simple. Et non, non, franchement, c'est. Enfin, l'environnement est incroyable. L'air est pur. Un peu comme en Suisse d'ailleurs.
Ouais,
Là-dessus, ça n'a pas trop eu. T'as pas été dépaysé là-dessus, je pense.
le seul côté de dépaysement, c'est côté montagne. Là-bas, c'est tout. Enfin, c'est un pays qui est hyper plat. Bah,
Oui.
les Pays-Bas,
Ouais.
hein. Pays
C'est
qui est
vrai.
hyper plat. Et puis, du coup, ici en Suisse, c'est que des montagnes. Moi, je suis habitué aux montagnes. Je suis né dans
Ouais,
les montagnes. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des montagnes. Sinon, je suis perturbé, tu vois.
bien sûr. Ok, donc quels sont les enjeux aujourd'hui, tu penses bah en fait de la transition écologique des véhicules, donc que ce soit haut de gamme ou non.
En fait, Alors déjà, pour faire un petit lien avec ce qu'on s'est dit avant, Genesis, normalement, on ne pensait pas passer à l'électrique aussi rapidement, mais depuis octobre passé, on a une annonce en interne qui nous ont dit comme quoi 2025, ce serait que des livraisons en électrique.
OK.
Donc nous, cette année, on a encore un peu de thermique en stock, mais déjà maintenant, on a arrêté les commandes de véhicules thermiques et c'est que des commandes de
D'accord.
électriques. Honnêtement, moi, quand on m'a dit ça, j'ai quasiment hésité à partir parce que je me suis dit, bah attends, si moi je suis né dans le. Enfin, je kiffe le pétrole, j'ai pas honte de le dire. Et j'ai vraiment du mal avec cette idée de partir, si tu veux, enfin, de partir dans le côté, on va dire, électrique. Parce que bah, du coup, en fait, on n'a pas d'hybride. Hein. Nous, c'était soit thermique, soit électrique. Donc maintenant, c'est que électrique. Et c'est vrai qu'en fait, c'est compliqué à te dire, je vais vendre un produit qu'à la base, moi-même, je ne fais pas forcément confiance
Bien
au
sûr.
produit. Et du coup, c'est compliqué de le vendre. Parce que du coup, ton client, il sent qu'il y a une tension, il sent qu'il y a un problème. Et dès que tu parles de thermique, il était tout content. Et puis dès que tu parles électrique, tu es un peu moins content. Et du coup, tu es même suspect d'être vendeur, en fait, dans ce genre de produit, quoi. Évidemment, tu dois t'y faire. C'est une manière de faire, une manière de vivre, une
Bien
manière
sûr.
de tout, en fait. Je pense qu'il faut des véhicules thermiques, des véhicules hybrides et des véhicules électriques, et que chaque client
D'accord.
est assez différent pour prendre un bien particulier. C'est comme si, imaginons, tu devais choisir entre un appartement et une maison. C'est deux choses différentes. Tu as des gens qui vont vouloir forcément vivre un appartement pour le côté ville, etc. D'autres qui veulent une maison pour le côté campagne. Et ben là, c'est pareil. Tu en as qui vont vouloir prendre des véhicules thermiques pour le côté, imaginons, grande distance, parce que du coup, ils ont un style de vie qui requiert une thermique, et d'autres qui roulent tellement
Bien
peu
sûr.
qu'ils vont prendre un petit véhicule électrique de ville et qui vont faire que des petits déplacements en électrique, qui vont se brancher chez eux parce qu'ils ont une borne et que genre c'est bien accordé. Donc en fait, genre chaque client est différent. Et donc c'est vrai que tout arrêter pour, imaginons, faire qu'un produit donc électrique, comme du coup les promesses se font depuis plusieurs années, moi j'y crois pas du tout. Et c'est comme si du coup, demain tu disais à une personne, bah, du coup tu ne pourras vivre qu'à l'appartement. Donc en fait, tous ceux qui sont en maison devront passer à l'appartement et ils vont pas accepter. Et du coup, forcément, moi je pense qu'il faut un petit peu de tout pour tout le monde. Moi, j'aime beaucoup
Bien
l'hybride
sûr.
parce que du coup, je pense que maintenant, là, on est arrivé à passer 2020, on est arrivé sur les hybrides qui sont vraiment performantes. J'ai mon meilleur ami qui s'est acheté une Classe C à l'époque chez Mercedes, il s'est acheté une Classe C 300E, la dernière là. Les W206, non, les S, pardon, 206, parce que du coup, c'est une break. Et pour le coup, il
Ouais.
a 95 km, je crois, d'autonomie. Et franchement, c'est parfait. Il a fait le plein que deux fois
D'accord.
en un an. Et du coup, en fait, c'est parfait, parce que du coup, lui, il fait que des petits trajets. Mais des fois, il fait des grandes distances. Il doit aller à Zurich. Il n'a pas envie de s'arrêter en cours de route. Et puis je comprends, en
Bien
fait,
sûr.
la situation. Donc, en fait, les hybrides, c'est top aussi. Mais c'est vrai que passer à tout électrique, c'est impossible. Exemple tout bête, un jour j'étais à Genève, je devais aller à Grenoble, remonter sur Genève et après aller à Gland. Gland, c'est
D'accord.
plus au nord de Genève, environ à 30 minutes de route. Et j'ai pris une
OK.
G8, c'est une Genesis qu'on a chez nous, qui a en soi la plus grosse.
OK.
C'est un peu comme une classe E, on va dire, chez Mercedes.
D'accord.
J'ai pris ça, j'ai fait l'aller-retour du coup de Genève à Grenoble, puis Grenoble à Genève. Savoir qu'en fait, genre, l'autoroute, c'est beaucoup de montagnes vers chez nous. Donc en fait, t'as beaucoup de montées et descentes. Ce qui est le pire
Bien sûr.
pièce électrique. Et pour le coup, arrivé à Genève, il me restait peut-être 10%, mais je devais aller le plus vite possible à Gland. Donc heureusement que j'ai accès à la flotte de Genesis et que j'ai pu changer de voiture. Et si j'avais qu'une voiture, même m'arrêter à une borne, j'arrive en retard à mon rendez-vous. Donc en fait,
Bien
c'est
sûr, bien sûr.
des fois où, même si, imaginons, on te dit d'anticiper à l'avance tes trajets, des fois, tu peux juste pas, quoi. Si, imaginons, j'avais une copine qui était enceinte et que je rentre de rendez-vous, qu'il me reste 5% de batterie, je peux m'arrêter à une banque quand elle est enceinte, tu vois, et qu'elle va coucher. Enfin, c'est
Bien
bête,
sûr.
mais quand des fois, t'as une urgence, tu peux pas.
Ouais.
Enfin, c'est genre compliqué de trouver un moyen de t'organiser, quoi. Donc,
Bien sûr.
pour les gens qui sont très pressés et qui ont beaucoup de rendez-vous qui sont l'un sur l'autre, c'est impossible. Maintenant, les gens qui roulent occasionnellement en véhicule, oui, là, ils peuvent prendre un véhicule électrique. Là-dessus,
Ouais,
c'est
bien sûr. Bien
exact.
sûr. Aujourd'hui, en fait, tu as des. Enfin, là, on le voit. Je sais pas si t'as vu là dernièrement, il y a une société là en Chine qui a donc développé des batteries électriques pour les voitures. Mais c'est impressionnant les performances que ça te procure. C'est-à-dire que, en fait, ils te rechargent. Donc, ils annoncent un plein complet en 8 minutes. Ils annoncent 1300 km d'autonomie par recharge.
Ok.
Et enfin, c'est impressionnant. Et c'est des batteries chinoises, bien évidemment.
Bah après, moi franchement je valide, mais déjà pour le plein d'essence, enfin, pour le plein de batterie, pardon, j'ai dit plein d'essence. Pour le plein de batterie, déjà en fait il faut que ta borne aille avec. Si t'as pas la borne qui est rapide, qui va du coup en paire avec ton véhicule, c'est déjà fini pour toi.
Bien sûr,
C'est pareil,
on est
Genesis,
bien d'accord.
on promet une charge de 10% à 80% en seulement 18 minutes. Voilà, GV60, c'est un petit
D'accord.
peu, on va dire, électrique chez nous. Mais du coup, il faut que ta borne aille avec. Si tu penses à la maison le soir, tu fais ça en 7 heures. Donc, tu vois, en fait, et encore, 7 heures, c'est une borne à la maison. Si c'est une prise domestique, tu en as pour
Ouais.
3 jours ou 4 jours. Donc, en fait, c'est
Non,
vraiment
bien sûr.
ta borne aille avec. Et souvent, cette borne-là, il n'y a pas beaucoup. Elle coûte cher, aussi bien
Ça.
installée que derrière, aussi à se brancher à. Et puis, en plus, souvent, elles sont pleines de personnes. Donc, en fait, c'est bien, une minute, c'est un plus. Mais maintenant, c'est si, en fait, typiquement, si tu pousses tout le monde à acheter un véhicule électrique avec les installations qu'on a pour l'instant au niveau des bornes, on sera vraiment sûr s'assurer au niveau des véhicules par rapport aux bornes. Et je te laisse juste aller dans le sud de la France. Bah, du coup, tu es déjà, mais du coup, quand tu vas du, imaginons, de Paris à sud de la France en été, tu t'arrêtes à une
Ah, mais
autoroute,
ça.
tu vois le nombre de monde qui
Mais
attend,
bien sûr.
c'est horrible. Donc, en fait, c'est
Mais
bien.
bien sûr.
Etc., mais les bornes rapides sont notre prise souvent et c'est compliqué. À moins que tu voyages la nuit, mais la nuit c'est autre chose encore.
C'est fou quand même qu'ils aient pas pensé à l'hybridation Genesis. Parce que de mémoire, les Hyundai hybrides, ça existe, non?
Oui, ça existe, mais en fait, ils ont voulu, en fait, si tu veux, faire le transfert directement de essence à électrique.
D'accord.
Parce que, en fait, si tu veux, vu que c'est une marque assez récente, c'est une marque qui date de fin 2015. Ils ont d'abord fait que des thermiques, et puis quand ils ont vu qu'il y avait ce côté où bah, bientôt on allait passer à électrique, ils se sont dit bah, au lieu de développer ça, on va d'abord faire directement électrique, et puis entre guillemets, bah, on va sauter une étape qui, je pense, pas la bonne solution. On a beaucoup de clients qui veulent des hybrides, et je les
Bien
comprends.
sûr.
Et donc c'est vrai que c'est pas forcément la bonne manière. Maintenant, forcément, il y a de la clientèle pour tout le monde. Ces clients-là iront peut-être chez BMW ou chez Audi, ou sinon on arrivera à les pousser. Acheter un véhicule que thermique ou que électrique. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de leur part. Maintenant, il y a eu beaucoup d'échos ces derniers temps que différents groupes automobiles, je ne parle pas que de Genesis, parce que du coup, c'est assez compliqué à répondre à ça, mais d'autres groupes, notamment les groupes allemands ou américains, qui disent qu'ils arrêtent le développement des véhicules électriques et qu'ils vont plus
D'accord.
sur des véhicules thermiques, forcément plus efficients, hein, mais. Vraiment, ils vont revenir à ce côté thermique, entre guillemets, à l'ancienne, parce que du coup, le marché ne suit pas, en fait. Le business des véhicules électriques n'arrive pas à suivre. Et typiquement, je crois que c'était Volkswagen qui avait fait un article, ou du moins une personne qui a fait un article là-dessus, qui disait que les ID3 étaient hyper compliqués à vendre, il y avait un stock énorme et que ça ne se vendait pas. Et qu'en fait, pour le coup, c'est un stock, en fait, dans l'automobile, c'est horrible, parce que du coup, ça te coûte beaucoup d'argent. La caisse pour
Bien
une
sûr.
décote, ça te prend une place, c'est de l'argent qui est immobilisé en plus. Donc c'est vraiment hyper compliqué. Et il y avait beaucoup de stocks de ID3 qui ne se vendaient pas. Et pour le coup, en fait, les Golf se vendent beaucoup plus qu'une ID3. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour eux de croire encore à ce côté électrique.
Bien sûr, bah t'as la Fiat 500 aussi. La Fiat 500, c'est identique. Ils ont vraiment mais un parc automobile énorme. En attente parce que bah, malheureusement elles se vendent pas. Après aussi elles sont excessivement chères. On
Absolument.
va se mentir, 30 ou 35 000 euros pour une Fiat 500 électrique, c'est hors de prix.
Ouais.
Mais ouais, donc du coup voilà, ils n'arrivent pas à la vendre et donc du coup ils ont réannoncé des Fiat 500 thermiques. Ça c'est dingue.
Ok, étonnant.
C'est dingue qu'on en soit arrivé là.
Étonnant, étonnant. Non, mais c'est vrai que
Ouais.
la Fiat, c'est aussi un problème, c'est qu'elle est beaucoup trop chère. La Fiat est connue pour être un produit accessible, mais là, c'est de prix, quoi.
C'est comme on regarde honnêtement les Fiat Abarth, les dernières qui sont sorties. Elles sont annoncées entre 50 et 60 000 euros, mais c'est n'importe quoi. Enfin, aujourd'hui, si on veut une voiture un peu puissante, sympa, etc., ben on va prendre une M2 pour ce budget-là, on va pas prendre une Abarth électrique. Enfin, je trouve ça ridicule.
C'est ça, hein. Là j'ai acheté une Supra, tu vois, il n'y a même pas un
Ok.
an. J'ai payé 70, elle était neuve. Mais du coup, 70, t'as, à ce prix-là, tu as d'autres véhicules qui sont, entre guillemets, qui n'ont rien à voir, mais qui sont vraiment genre, juste nuls, quoi, tu vois. Et tu as des véhicules comme ça, on va dire, plaisir à ce prix-là. Et quand je regarde la Abarth, comme tu as dit, qui a un prix qui est beaucoup trop cher. Moi, je suis parti une fois chez Fiat, il y a quelques semaines, partir rendre visite. Et puis, j'aurais dit, mais comment ça marche pour la Abarth? Enfin, c'est qui vos clients, du coup? Et ils m'ont dit, en fait, ce qui est étonnant, c'est que déjà, une Fiat 500 électrique, full option, on n'est pas très loin de la Abarth, déjà au niveau prix. Parce que du coup, en fait, le prix de base, c'est 35, mais quand tu mets des options, ça monte assez vite. Et puis, ils m'ont dit qu'en fait, ils galèrent à les vendre. En fait, j'aurais demandé, est-ce
Bien
que des
sûr.
clients de la Abarth, les anciens clients de véhicules thermiques, venaient pour acheter un électrique? Ils m'ont dit que non. Il n'y a pas un client qui avait avant une Abarth essence qui est venu acheter une Abarth électrique. Il n'y en a pas un. Alors que c'est la même marque
C'est dingue.
en termes de
Oui, mais
rétention.
c'est pas le même budget. C'est pas du tout le même budget.
C'est
Tu
ça.
vois, moi avant là, j'avais une Abarth, mais c'est enfin je l'ai revendu, je l'ai revendu 20 000 l'Abarth.
Ok.
Et aujourd'hui, j'ai absolument pas le budget en tant qu'étudiant. Déjà, d'avoir le budget en tant qu'étudiant pour avoir une Abarth, déjà, je considère que c'est bien, je m'estime heureux, tu vois. Mais par contre, non, j'ai absolument pas le budget pour avoir une Abarth électrique, tu vois. Et puis, ça me viendrait même pas à l'esprit. Parce que, enfin, tu regardes, je sais pas si t'as eu l'occasion de l'essayer, moi, j'ai eu l'occasion de l'essayer, la électrique. Et en fait, t'as une latence entre le moment où tu appuies sur l'accélérateur et
Okay.
le moment où l'haut-parleur commence à chanter. Parce que tu sais, enfin, c'est un bruit.
Ouais.
Ils ont quand même mis un bruit à l'accélération. Et en fait, bah, tu as une latence. C'est-à-dire que quand tu accélères, bon, bah, tu sens que le bruit arrive. Et dès que tu bah, décélères, tu enlèves ton pied de l'accélérateur. Et ben bah, en fait, ça continue d'accélérer pendant, je sais pas, une seconde. Tu
Ok.
vois?
Ok, c'est là.
Donc, c'est un gadget. Mais c'est. Je sais pas, je trouve que c'est pas au point non plus.
Je pense que
Tu vois?
la seule caisse qui ferait kiffer, tu vois, aujourd'hui, c'est la IONIQ 5N. Je sais pas si tu as vu, c'était quoi
Oui.
comme modèle, qui est tout récent. Et en fait, du coup, quand tu as même des palettes, on va dire, de vitesse au volant, donc déjà, tu as le son qui est plus ou moins bien fait. Et tu as aussi le côté partage de
Non.
vitesse, où en fait, du coup, tu as, entre guillemets, un compteur de tour minute. Et du coup, tu passes la vitesse. Alors, c'est
D'accord.
tout faux, hein, c'est tout fait, on va dire, en interne. Enfin, ça reste un véhicule, on va dire, électrique. Mais je
Oui,
pense
bien sûr, bien sûr.
et kiffer en termes d'expérience à conduire. Donc moi, je pense que dès
Vous
que
êtes pas mal.
je vais essayer ça, mais franchement, c'est la seule qui me fera, on va dire, kiffer. Parce que franchement, j'ai essayé plein de caisses électriques, genre Tesla, Mercedes, etc. Il n'y en a pas une aussi kiffant. Il n'y en a pas une, en fait, du coup,
Si, il y en a une
il y a à
qui
conduire.
font, je vais te dire ce que c'est. Il y
C'est
en a
quoi?
une, c'est la Taycan Turbo S.
Ok, alors oui. J'ai essayé en passager ça, pour le coup.
Ça, c'est incroyable. 731 chevaux. Et tu les sens vraiment.
Ouais.
C'est impressionnant.
Mais encore une fois, en fait, c'est comme à l'époque, on comparait les caisses automatiques et manuelles. Les manuels, tu as
Ouais.
beaucoup plus d'émotions parce que tu as le côté passage de vitesse. Quand tu fais une accélération, tu as au moins 3 ou 4 à-coups, tu vois. Et
Bien sûr.
automatique, c'était peut-être trop, trop linéaire. Et là, en fait, c'est encore plus linéaire, tu vois. Donc, en fait, tu as le côté
Ah, bien sûr.
où tu es collé au siège, mais après, c'est fini. Tu n'as pas le côté émotion.
Exactement.
Bah, déjà, la vitesse, tu la sens pas forcément. Il y a plus de deux, bah, du coup, tu as juste une fois pendant peut-être 2 secondes la coup, et après, c'est fini, quoi. Puisque du coup, tu es déjà collé au
Ouais,
siège.
bien sûr.
Moins le côté où ça remonte. Alors qu'une caisse manuelle, tu as le côté où vraiment, bah, genre, ça remonte toutes les 3 à 4 secondes, tous tes points de rapport. Et vraiment, c'est beaucoup
Oui,
plus.
c'est ça.
Et ça, justement, en fait, c'est genre, ok, c'est kiffant pour l'accélération. Ça marche très bien. J'ai rien à dire par rapport à ça. Mais ça reste beaucoup moins kiffant, on va dire, qu'une thermique, où du coup, tu as un son moteur, tu as les rapports qui sont passés. Et puis même, en fait, tu as un peu plus de contrôle sur ce que tu fais par rapport à une électrique où des fois, c'est même limite dangereux, je trouve, parce que du coup, tu prends tellement de vitesse que du coup, tu veux peut-être avoir peut-être trop de confiance sur ta conduite, alors que la caisse est quand même
Ok.
limite, c'est genre, elle est vachement lourde. Le châssis est bon, certes, mais elle est vachement lourde et pour le coup, bah, du coup, tu peux te faire peur, quoi. Tu prends un virage qui fait tout
Bien
droit,
sûr.
c'est compliqué.
Ouais, c'est clair. C'est clair. Bon, bah écoute, on va terminer cette interview. Est-ce que à tout hasard, tu aurais quelque chose à partager, donc un mentor ou un livre qui t'a aidé dans le domaine de l'automobile, tout simplement pour avoir des contacts ou. Est-ce que tu as eu un mentor? T'as eu... T'as eu quelque chose? Pas du tout.
Moi, j'ai peut-être des conseils à donner pour des gens qui veulent postuler
Ok.
sur mobile. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui postulent et qui n'ont pas de retour. Mercedes, moi, j'ai pas eu de piston. Enfin, je connaissais des gens, mais j'ai pas forcément eu de piston. Et il y a eu beaucoup de gens qui ont postulé. Sur LinkedIn, il y avait peut-être dans les 200 et quelques candidats. Et ils m'ont pris moi. Je
D'accord.
vais vous dire comment j'ai fait. En fait, j'avais postulé, j'ai pas eu de retour au bout d'une semaine. Et en fait, j'ai cherché à savoir en interne qui était la DRH qui gérait ça. Et après,
OK.
je l'ai mis sur LinkedIn, j'ai ajouté. Et toutes les 2 semaines, je la relançais. Savoir où était le processus de recherche, etc. En fait, vraiment, je montrais mon intérêt pour ça. Et quand elle m'a rappelé 2 mois après pour me dire qu'elle me prenait moi, du coup, enfin, du moins entretien, elle m'a dit que c'était vraiment genre grâce à ça qu'elle a su, enfin, qu'elle a vraiment voulu me prendre moi et pas un autre. C'est qu'en fait, j'ai réussi à me démarquer. Donc en fait, si moi je peux donner des conseils, c'est vraiment démarquez-vous. Il faut vraiment pas hésiter à sortir du lot, quitte à paraître un petit peu ridicule ou des fois un petit peu chiant. Il faut vraiment sortir du lot, montrer qui on est, montrer qu'on a vraiment envie de travailler. Et c'est vraiment en fait comme ça que toute ta vie va se tracer, quoi. Si tu fais comme tout le monde,
Bien sûr.
à la fin, en fait, ta vie, elle est juste chiante. Et puis, du coup, tu ne vas pas forcément te démarquer. Et il y a beaucoup de gens aussi qui rêvent, si tu veux, d'avoir des belles voitures, des belles maisons, des belles montres, etc. Oui, mais du coup, si tu fais comme tout le monde, tu n'auras pas ça, parce que du coup, très peu de gens ont ça. Donc, fais comme les gens qui ont ça et qui ont, en fait,
Bien
ont
sûr.
le courage, on va dire, de oser faire différemment. Et tu verras que ça va payer. Et Mercedes, ça m'a payé comme ça. Pareil pour le pétrole. Quand j'ai négocié l'entretien parce que j'ai donné un rabais en plus, mais en fait, c'était une prise de risque. Hein, il m'aurait juste rigolé au nez, puis c'était parti, quoi. Maintenant, du coup, j'ai pris le
Bien
risque
sûr.
et du coup, c'est passé. Et en fait, c'est que comme ça que ça marche. Donc, c'est prendre des risques. Et puis après, en termes de mentor, j'ai pas forcément de mentor dans l'automobile. Il n'y en a qu'un, c'est Sagin Yalçın. C'est un Turc allemand.
D'accord.
Qui est maintenant aux Émirats, qui a créé un grand business. J'ai plus le nom du business, mais en fait, il faisait de la. C'est une grosse plateforme de revente de véhicules d'occasion. Et maintenant, c'est un
D'accord.
multimilliardaire qui a super bien réussi. Et pour le coup, vraiment, là-dessus, il m'a beaucoup inspiré parce qu'en fait, il fait beaucoup de vidéos sur LinkedIn et puis même YouTube. Et en fait, c'est hyper inspirant.
D'accord.
Donc, en fait, c'est un ami de MO Vlogs. Je ne sais pas si tu connais, il y a longtemps, il y avait un YouTuber à Dubaï. MO Vlogs qui faisait
Ça
ça.
me parle.
Et pour le coup, du coup, j'ai connu comme ça à l'époque et franchement, hyper inspirant. J'ai regardé un petit peu des talk shows, c'était
D'accord.
hyper inspirant. Donc vraiment, lui, il m'a beaucoup poussé à me démarquer, on va dire, et puis à oser, quoi.
Ok. Donc, je regarderai ça, tu vois, je connais pas du tout.
Du
Et ouais,
coup,
est-ce que tu as d'autres conseils pour un jeune aujourd'hui qui voudrait du coup se lancer dans l'automobile? Donc tu disais vraiment se démarquer, etc.
ouais.
Pour quelqu'un, on va dire, qui est plus, on va dire, en recherche de stage ou d'alternance ou qui sait pas réellement ce qu'il veut faire, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Est-ce que tu lui dirais plutôt d'aller dans des salons professionnels? Parce que c'est vrai que par exemple, tu vois, moi, tout. Franchement, je dois avoir au moins une ou deux fois par semaine des jeunes qui m'envoient un message sur LinkedIn et qui m'envoient leur CV, tu vois, mais qui ne passent pas en concession directement.
Okay.
Et je trouve ça dommage parce que le fait de se présenter, je trouve que c'est super important, tu vois.
En fait, même nous, hein, même chez Genesis, on a peut-être par jour, on a peut-être une personne par jour qui passe poser un CV
Ok.
en présentiel.
D'accord.
En fait, si tu veux, on en a peut-être trop des similaires, tu sais, trop de profils similaires. Donc en fait, on ne les donne même plus là-haut, en fait, honnêtement. Maintenant, les profils, en fait, on les garde dans le tiroir et puis bah, ça ne monte plus là-haut, malheureusement. Parce qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Moi, je pense que si vraiment il veut un stage, enfin, si une personne veut un stage, encore une fois, en fait, il faut qu'il se démarque. S'il peut venir à l'entreprise, déjà, donc forcément en présentiel, mais en plus de ça, il vient avec un plan de pourquoi, enfin, qu'est-ce que lui, il ferait pour, entre guillemets, améliorer les ventes ou améliorer l'image de marque, etc. Qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce que lui a comme capacité, comme qualité qui pourrait amener justement à l'entreprise? Et qu'il le
Bien
mette
sûr.
sur un bout de papier, hein, comme un plan d'action. S'il peut faire ça, je pense que là, c'est un gros plus. Ça montre que le mec a fait des recherches sur ta boîte et ça montre également qu'en fait, il a vraiment envie de travailler et qu'il a les capacités pour faire ce qu'il va faire. Si tu montres ça à un
Bien sûr.
directeur commercial ou même enfin, un directeur, on va dire, général, je pense que tu as des grandes chances d'être, entre guillemets, mis en priorité par rapport à un stagiaire. Enfin, du moins, si il cherche un stagiaire, tu seras, entre guillemets, en haut de la. Du tas, Parce que du
De la liste, ouais.
ah, tu seras venu avec quelque chose en plus. Un CV et une lettre, on sait tous en faire. Maintenant, tu as tout ce qui est genre ChatGPT, etc. Franchement, c'est facile à
Bien
faire.
sûr.
Mais maintenant, si tu peux faire un truc qui est plus personnel, qui est vraiment lié au business où tu vas justement postuler, je pense que tu gagnes beaucoup plus que, qu'un CV basique. Et en tout cas,
Ok.
personnellement, vraiment pour mon business, demain, pareil, j'ai eu déjà des demandes de stage que j'ai refusées. Mais demain, s'il y en a un qui vient, enfin, pour profil lead, qui vient en fait avec un CV, mais en plus avec un plan d'action qui dirait, bah voilà, moi je ferais ça, comme ça, pour améliorer telle vente, pour faire ces... Enfin, vraiment, en fait, il vient avec un plan. Je pense que là, je l'écoute et je le prends. C'est vraiment
Ok.
comme ça que ça marche. C'est vraiment amène de la valeur à la personne en question. Et après, peut-être hein, qu'elle te rendra justement cette monnaie en te prenant en tant que stagiaire, en tant que CDI, enfin, peu importe le poste que c'est, quoi.
C'est ça. Et la persévérance aussi, c'est très important.
Absolument. Toujours relancer. Ça, faut pas hésiter. Enfin, franchement, même pour les ventes, c'est pareil, hein. Pour les ventes, moi, souvent, c'est après 3, 4 relances que j'arrive à vendre. Parce que du coup, si tu relances pas, c'est fini, quoi. Et donc, c'est pareil pour un
C'est ça.
poste. Si tu relances pas le RH que moi j'ai fait sur LinkedIn, tu vois, avec les RH de Mercedes, si tu relances pas, du coup, tu passes comme tout le monde et du coup, bah, elle prend entre guillemets le meilleur des postes. Mais si tu te démarques,
C'est
bah,
ça. Ok, super. Et toi, du coup, tu te vois où là en ce moment dans ton objectif de développement personnel? Est-ce que tu as des objectifs dans, je sais pas, dans 2, 3 ans à atteindre?
franchement, ouais, en fait,
Tu pourrais nous partager?
j'aimerais, je pense, dans quelques années, je pense, que du coup, moi, c'est un peu trop tôt, mais quelques années, faire à plein temps, en fait, ce que j'ai développé, le business,
Ok.
faire ça à plein temps, parce que du coup, c'est un pur kiff de voir des personnes, de les voir aussi d'une manière différente, parce que du coup, tu agis comme directeur, donc en fait, tu vas agir d'une manière où ce que tu fais de mal, c'est toi qui es responsable. Alors qu'en fait, quand
Bien
tu es
sûr.
vendeur, quand tu es, on va dire, une personne qui est sous quelqu'un, si des fois c'est mal fait, tu peux pas forcément changer. Tu peux proposer l'idée, mais si, imagine, une personne en face, elle est un petit peu têtue, elle va pas accepter, et du coup, tu pourras pas améliorer ta manière de faire, et tu vas rester un petit peu bloqué. Et moi,
Bien sûr.
c'est un truc que je déteste, c'est rester au même niveau qu'il y a un mois, tu vois. Moi, il faut que, genre, tous les ans, typiquement, que je fasse, on va dire, comment dire, une idée de comment j'étais il y a un an. Et si je vois que je n'ai pas progressé en termes de manière d'être, en termes de manière de faire, et ben je vais vraiment être déçu et démotivé. Et en fait, quand tu as un business, justement, tu peux t'améliorer vraiment grandement parce que du coup, chaque action que tu fais mal, tu vas la corriger derrière et c'est un gros plus, quoi. Donc, clairement, c'est genre faire mon business à plein temps et puis juste essayer quand même de rester proche de l'automobile. Même si, imaginons, je pars de ce monde-là, je vais quand même rester proche parce que ça montre qu'il est hyper intéressant. Et oui, ceci un conseil que je voulais donner aussi, c'est quand vous commencez dans l'automobile, des fois vous êtes peut-être trop pris parce que du coup c'est votre passion et il faut vraiment savoir mettre une limite entre votre vie privée et votre vie pro. Et chez Mercedes,
Exactement.
j'étais au bord du pas de la dépression, mais en fait j'ai tellement investi dans mon travail parce que je kiffais ce que je faisais que même dans ma vie pro, quand j'étais en vacances, j'arrivais pas à lâcher le morceau. J'étais vraiment à fond dans mon travail et j'étais sur mon téléphone, j'étais sur mon PC, etc. Et que ce soit ma copine, que ce soit ma famille, etc. Ils n'en pouvaient plus parce que du coup, je n'avais pas du temps pour eux, mais j'avais que du temps pour Mercedes ou la marque où tu travailles, quoi. Et pour le coup, il faut vraiment savoir mettre une limite, savoir mettre une barrière entre ta vie privée et ta vie pro. Genesis, je sais beaucoup mieux le faire, même si maintenant, je galère encore un petit peu. Là, j'étais au Mexique il y a un mois, j'étais au téléphone quasiment tous les jours, quoi. Mais il faut quand même savoir mettre une limite et te dire, OK, je suis en vacances, je pose mon téléphone, je pense à autre chose. Et ça, c'est hyper important pour ta vie privée, pour tes proches, comme pour toi. Donc c'est aussi à
Bien
propos.
sûr. Écoute, merci beaucoup Edwin.
Merci à toi, Hugo.
Pour
Hyper
ce...
intéressant.
Merci à toi. Franchement, c'était un podcast très très enrichissant. Je mets bien évidemment toutes tes informations juste en dessous dans la bio. N'hésitez pas à vous abonner et à nous suivre pour beaucoup plus de podcasts. Et je te dis à très vite. Ciao.